Donc, le sujet de ce matin est un petit peu particulier parce qu'on ne va pas parler d'éthique animale finalement, on va parler de à peu près tout sauf ça. Mais je tiens quand même à préciser que ce dont il va être question, ce n'est pas à la place de parler d'éthique animale. On est bien d'accord. Moi, je parle de l'éthique animale de façon très régulière. C'est juste que là, ça va concerner les personnes. Et ça vous est peut-être arrivé à certains d'entre vous, d'être face à des personnes qui sont convaincues par le discours éthique, et pour autant, ils ne changent rien. Ben moi, ça m'est arrivé régulièrement, je suppose que je ne suis probablement pas la seule, et si bien qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui cloche, parce que plus je parlais d'éthique avec cette personne-là, et finalement, ça ne change... Oui, je suis d'accord. Ça me pose un problème, ben oui, mais je continue. Et donc, c'est ça que je propose d'explorer. Alors, sachant que, en gros, il y a deux cas de figure. Hein. Soit vous êtes en tête à tête avec cette personne, soit on n'est pas en tête à tête. Et là, on est dans le média de masse. Ça va être la radio, ça va être éventuellement la télévision, des interviews écrites, voire des conférences. C'est-à-dire là, on s'adresse à un certain nombre de personnes. Et là, malheureusement, on ne pourra pas s'adapter au cas par cas. Donc là, moi, dans ces cas-là, je prends le parti de façon arbitraire de choisir les arguments qui, en probabilité, risque de toucher le plus grand nombre. Là, dans ces cas-là, je ne peux pas faire du travail de précision, donc je choisis d'être le plus en fonction de différents critères qu'on va voir. Ce qui ne m'empêche pas, dans ces mêmes conférences, de parler d'éthique, mais sans jamais donner la conclusion, c'est-à-dire que je vais parler des choses relatives à l'éthique, mais je ne vais jamais dire, donc il ne faut pas manger de produits animaux, jamais. J'estime que là, c'est la personne, soit elle a compris le truc, et de toutes les façons, elle fera sa conclusion d'elle-même, ce qui a forcément plus de poids que si c'est moi qui le dis, elle va se dire, oui, bon, cause toujours, tu m'intéresses, et tralala. Par contre, je vais, dans ces cas-là, parler de choses précises, d'un ton quasi détaché, par exemple, et puis comme s'il connaissait déjà. Bon, je ne vais pas m'étaler sur la castration à vif des cochons, vous le savez déjà. Vous voyez, ça va être une façon comme ça de le faire comme s'ils le savaient. Évidemment, ils ne le savent pas forcément. Mais ça évite d'être culpabilisant. Et eux, ils ont quand même le message en passant. Et c'est une façon de ramener à la souffrance physique pour essayer de les toucher. Parce que le pur rationnel pour certaines personnes, ça ne peut pas marcher. Et on va voir pourquoi. Donc en fait, en gros, si on résume ça, moi je me suis dit, il y a probablement des éléments qui vont interférer chez ces personnes, parce que donc, c'est ce que j'ai représenté flèche de droite, c'est-à-dire, on est bien d'accord, hein, c'est des arguments, quelque part, tous les humains, quelque part, on a tous envie de respecter, de ne pas nuire à d'autres êtres vivants. Enfin, quelque part, à part quelques psychopathes... Et ça, on est sur du cas particulier. En règle générale, on est quand même tous sur ce schéma-là. À tel point qu'un sondage avait été fait et qui indiquait qu'à peu près 90% des Français, s'ils devaient tuer l'animal avant de le manger, bah, ils déclaraient bah, « non, tant pis, je m'en passe ». Donc il y a quand même bien, à la base, ce tabou de faire mal. Et là, je vais faire une petite digression. À ce sujet-là, j'ai une théorie. Je ne dis pas que c'est la réalité, c'est juste une théorie. Il me semble qu'au départ l'humain était originaire d'Afrique, que probablement au départ on était plutôt fruitarien, et puis anatomiquement d'ailleurs c'est à peu près ça, comme d'autres grands primates d'ailleurs, hein, non humains, pas tous mais certains, comme le bonobo par exemple, pas le chimpanzé. Et à un moment on a dû ou on a voulu essaimer. Mais ce faisant, à partir du moment où on est parti en migration, il y a un moment où on n'a pas forcément pas pu trouver les fruits en quantité nécessaire puisque le climat ne s'y prêtait pas. Donc, moi, c'est ma théorie. Il y a un moment, il a bien fallu franchir probablement un tabou parce qu'auparavant, il n'y avait pas besoin de tuer, en tous les cas, pas volontairement, parce que je pense que quand on mange des fruits ou des végétaux, il y a parfois des insectes ou des petites choses qu'on ne voit pas forcément et on les mange avec. Bon, ça, c'est... Mais de façon volontaire, l'acte de tuer de façon volontaire, ça, c'est un petit peu comme si à un moment, il a fallu franchir un tabou de tuer. Et beaucoup de sociétés, pour se permettre de tuer, pour pouvoir manger l'animal, ils sont passés par des sacrifices, sacrifices animaux, mais la plupart du temps, ils le mangeaient, l'animal sacrifié. Donc c'était comme un prétexte, ouais, mais c'est pas nous hein, qui demandons de tuer l'animal, c'est les dieux. Par contre, je le mange. Et on retrouve ça dans beaucoup de religions et de croyances. Donc moi, c'est un petit peu cette sensation-là que j'ai, c'est qu'au fond de nous, profondément, il y a un tabou qui est tué. Simplement, l'évolution et la culture a fait que ce n'est plus devenu un tabou. Mais un grand renfort de choses assez artificielles, telles que justement le sacrifice animal qui permet de maquiller finalement cette mise à mort. Du coup, ce n'était plus nous le responsable, c'était les dieux. Donc voilà, donc en gros j'ai schématisé, s'il n'y a pas d'interférence ou peu, c'est-à-dire de façon gérable, entre le moment où on est d'accord que bah ouais, c'est important de respecter et de ne pas nuire à autrui, quel que soit autrui, tout être vivant, à ce moment-là on va dire, bah, logique, je suis végé. Quand je dis végé, ça englobe tous les végés, hein, végétarien, végétalien, vegan, etc. Enfin moi je mets végé. Par contre, s'il y a des interférences, soit en nombre, soit en importance, là ça va poser problème et du coup on risque fort de continuer de commanditer l'exploitation et l'abattage des animaux, même si au fond de nous on n'est pas forcément d'accord avec ça. Donc en gros j'ai schématisé ça, vous voyez la flèche dans un sens qui va vers la lumière, bon, c'est purement symbolique hein. C'est en gros, on va vers ce que l'on aimerait aller, en l'occurrence ne pas nuire. Et toutes les flèches dans l'autre sens, ça symbolise les freins, mais les freins qui sont en réalité la plupart du temps des peurs. Et les peurs, si on ne les identifie pas, certaines personnes vont les formuler, d'autres pas, et la plupart ne le formulent pas. Si bien que nous, bah, on peut continuer dans notre discours, mais si l'autre il a une peur qui est ancrée, une ou plusieurs peurs, parce que parfois il va toutes les avoir, il peut écouter avec politesse, il peut faire oui, machin. Parfois même, il va vous dire « Ah, j'ai un rendez-vous, mais vous avez un site internet ?» Bon, en général, c'est une façon polie de couper la conversation, qu'évidemment, ils ne vont pas sur le site internet. Quoi. Ou alors, vous avez une doc, voilà. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent parce que toutes les façons, ils ne se sentent pas concernés. Donc, moi-même, ça m'est arrivé souvent. Hein. Alors j'ai classé ça en trois grosses types de peurs. C'est artificiel comme classement parce qu'en fait parfois ça pourrait se recouper, mais voilà, pour simplifier j'ai voulu les classer. Donc il y en a peut-être d'autres, il y en a même sûrement d'autres, moi c'est celle auxquelles j'ai pensé. Donc les peurs de type psychologique avec la remise en question personnelle, le conflit de loyauté envers les parents, ça peut être les grands-parents, les peurs d'exclusion. Après, il y a le plaisir. Le plaisir, en fait, ça pourrait être... Ça fait, il y a quand même une partie de psycho dans le plaisir malgré tout. Hein. Mais je crois qu'en fait, l'être humain, c'est un animal comme beaucoup d'autres animaux. C'est-à-dire que fondamentalement, on recherche le plaisir, comme quasiment tous les animaux. On est mu par une pulsion de plaisir. Alors, ça va être bien sûr la nourriture, mais ça va être plein d'autres plaisirs. Donc dans lequel on va retrouver le plaisir gustatif et la convivialité, qui est un autre plaisir parce qu'on est un animal social, on n'est pas un animal ermite, donc on a besoin de convivialité. On va retrouver la difficulté de changer les habitudes. Alors je l'ai classé dans plaisir parce qu'en fait c'était plus dans le côté contraire, c'est-à-dire la peur du perte du confort. Donc évidemment, si je perds mon confort d'habitude, je ne suis plus dans le plaisir. Voilà, c'est un peu artificiel comme classement, mais c'était pour essayer de simplifier un petit peu tout ça. Et puis, toujours dans le plaisir, la vie sociale, puisque, là, encore une fois, on n'est pas des ermites, donc on a besoin de notre vie sociale. Et puis, enfin, les croyances. Et dans les croyances, j'ai mis les idées reçues concernant la santé. Vous savez, en gros, si je mange pas de viande, je meurs. Donc, quelqu'un comme moi, je suis végé depuis 23 ans. Quand j'ai franchi le pas... À l'époque, parce qu'en plus, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, je ne connaissais pas les magasins bio, aucune lecture, rien du tout. Alors, quand on me disait ça, je me disais, tant pis, si je dois mourir plutôt que d'en faire tuer des centaines, tant pis, je ne vois pas en quoi ma propre vie à moi, elle aurait plus de valeur que la vie de centaines d'animaux qui n'ont rien demandé. Bon, voilà. Et là, j'estimais ne pas être dans l'autodéfense parce que c'était une vie contre des centaines. Si ça avait été une contre une, Peut-être que je me serais plus posé la question, mais là j'étais vraiment dans des centaines contre la mienne. Donc moi je me suis dit, ça fait pas le poids. Donc je choisis d'être végé, puis tant pis si je dois mourir plus tard. Ça aurait pu être rapidement. Voilà. Tant mieux, après au fur et à mesure j'ai appris que en fait on était plutôt en meilleure santé, ben, ça c'était tant mieux, mais je le savais pas au départ. Alors en gros, c'est parler de la santé. Alors dans le titre de la conférence, vous aviez vu au départ. C'était santé, environnement, sauf qu'au fur et à mesure que je faisais mon diaporama, je me suis permis de rajouter le partage des ressources, mais ça c'est en lien avec l'environnement, mais je me suis permis de rajouter la gastronomie, la convivialité. Parce qu'en fait, ça fait partie au même titre des freins, et que si, à mon sens, si on ne va pas lever ces freins, donc ces peurs, on a des risques avec certaines personnes de faire, de toute façon, il ne passera pas à l'acte. Parce qu'il les gardera en tête et elles resteront là, et c'est vraiment, il me semble, important. Il y a quelqu'un hier qui a posé une question qui était justement dans la discussion, c'était sur l'éthique. Moi, il y a un moment, je ne sais pas comment faire pour aller plus loin. Enfin, je ne sais plus qui est-ce qui avait dit ça hier. C'était dans une question suite à une conférence. Mais en gros, enfin, peu importe, mais en gros, une des réponses peut se trouver là. Parce qu'en fait, si on sent que le dialogue en face, ça, c'est un peu dialogue de sourds, ou pas, parce que des fois la personne peut adhérer, mais pour autant elle ne passera pas forcément à l'acte, en tous les cas pas tout de suite, bah, c'est peut-être parce qu'il y a des peurs, et que là, notre boulot à nous, ça va aller d'aller chercher ces peurs. C'est-à-dire qu'il va falloir poser des questions, parce qu'ils ne vont pas nous les dire spontanément. Et surtout être très à l'écoute. Et à la fin de la conférence, enfin de la présentation, j'ai rajouté 4-5 diapos, justement par rapport à ça, comment faire pour aller chercher ces peurs. Donc là, on est dans du purement technique de communication, les outils pour aller faire parler les gens. Donc là, je reste dans la théorie. Donc en fait, en gros, en vert là, c'est... Et en fait, est-ce que certaines personnes n'auraient pas besoin d'autres étapes, celles qu'on va voir, pour finalement, par rapport à leur propre histoire personnelle, s'autoriser à s'ouvrir à l'éthique, à s'ouvrir et se l'approprier, c'est-à-dire pas seulement s'ouvrir et être d'accord avec le concept, mais pas passer à l'acte, mais vraiment se l'approprier. Et moi, il se trouve que dans ma propre expérience, j'ai constaté qu'un certain nombre de personnes, c'était le cas. Ils ont été obligés de passer par exemple la santé, l'environnement, d'autres même, une personne que je connais, lui, il est passé par l'étape gastronomie. Et en fait, souvent, le but du jeu de prendre des moyens contournés, ça va être d'aller aider à lever le conflit de loyauté, on va voir ce que c'est, et les autres obstacles aussi. Donc en fait, des blocages psychologiques. Ensuite, quand on aura passé en revue les différents freins, enfin qui sont des peurs, là, j'ai posé 3 questions. Est-ce que finalement, communiquer massivement sur les arguments santé, gastronomie, environnement, encore une fois, ce n'est pas à la place de l'éthique, on est bien d'accord, c'est en plus. Par contre, ce ne sera pas forcément en même temps, parce que souvent en communication, plus on segmente la com, mieux ça va être efficace. D'abord parce que le cerveau, il peut recevoir qu'une ou deux maximum infos, pas plus. Donc aller sur tous les thèmes en même temps, généralement, ce n'est pas très productif, parce qu'on ne va en retenir qu'un ou deux de toute façon. Donc l'idéal, c'est si moi je pouvais faire des spots publicitaires, si j'avais les moyens, je ferais toute une campagne de spots publicitaires télévisés où j'en ferais un qui irait casser les idées reçues, par exemple, sur la santé. Je sais très bien que ce n'est pas celui-là qui convaincra, mais je le ferais. J'en ferais un autre sur les choses néfastes sur l'environnement, un autre sur les idées reçues sur la gastronomie, un autre où là, je ferais que des images de super convivialité, comme quoi on peut être végé et s'amuser. Et puis le dernier, ce serait l'éthique, avec notamment des images d'éthologie, parce que je crois que beaucoup de personnes ont coupé tellement le lien avec l'animal par le mode de vie qu'on a, hein, on habite en ville la plupart, donc au mieux ça va être une relation avec le chien, mais de toute façon, le chien ou le chat, mais de toutes les façons, on ne va jamais transposer ça au cochon, à la vache ou au poulet. D'abord, on n'a surtout pas envie de le transposer, donc là aussi c'est une défense. Donc, demander à quelqu'un de ne pas nuire à un être sentient alors qu'il n'est pas conscient que le poulet ou le cochon est sentient, C'est la même chose que de lui demander de, ben de, je sais pas, moi, de pas donner un coup de pied à une pierre, par exemple. Bon, lui, il n'est pas sentient. Donc, de toute façon, je passerai aussi par une étape comme ça, un spot publicitaire sur la sentience. Et puis, peut-être le dernier, avec peut-être des images un petit peu plus choc, où là, la personne, à un moment, elle va être face à elle-même. Et comme elle aura eu toutes les étapes entre-temps, elle saura intuitivement que il n'y a pas de logique à continuer d'en manger. En gros, l'idée, ça va être non pas de démontrer pourquoi c'est bien ou c'est mieux de ne plus consommer de produits animaux, mais la logique, elle est plutôt de montrer pourquoi c'est complètement illogique de continuer d'en manger. En gros, ça va être plutôt ça. Donc, en fait, voilà, est-ce que communiquer massivement sur ces aspects permettrait finalement d'aider à affaiblir l'idée reçue que manger la viande et les produits animaux, c'est la norme, et la norme logique? Et si la réponse est oui, la deuxième question, est-ce que ça pourrait être un plus pour la cause animale? Si la réponse est oui, en quoi ce serait un plus? Donc là, voilà, on terminera par ces aspects. Donc, on va commencer par les blocages psychologiques, avec deux gros pôles, mais il y en a d'autres qui sont peut-être moins gros, mais qui sont quand même très importants. Donc, tout d'abord, la remise en question personnelle. Alors, pour nous tous ici, on ne va pas forcément penser que c'est important, parce qu'on a tous franchi cette étape. Si on est végé, c'est qu'on a forcément franchi cette étape. Mais pour certaines personnes, c'est carrément impossible, parce qu'elles ont un blocage. Donc, en fait, quand on renonce à la viande ou aux produits animaux, je me suis permis de faire un copier-coller d'une citation de Philippe Laporte, qui a écrit un livre qui s'appelle « Psychologie sociale du crime », qui est téléchargeable gratuitement sur Internet. Donc là, vous verrez que cette citation, je l'ai reprise à deux niveaux. Donc là, je l'ai coupée pour garder que ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la remise en question personnelle. Donc, le fait de renoncer à la viande et aux produits animaux, finalement, on le fait parce qu'on a pris conscience de la souffrance qu'on générait, mais donc forcément, il y a un moment où on s'accuse de l'avoir fait jusqu'à présent. Là, à partir de ce moment-là, et de deux choses l'une. Soit on est suffisamment mûr dans notre tête pour accepter qu'on n'est pas parfait, et auquel cas, on va ouvrir les yeux en se disant « Merde, je l'ai fait jusqu'à présent, j'ai été salopard », parce que quelque part, c'est de salopard, parce que tout le monde a vu des images terribles. Pourtant, qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Ah non, ne me montre pas ça, je ne peux pas supporter. Donc volontairement, on détourne, on sait parfaitement que ça existe. Donc, quelque part, c'est accepter qu'on a été salopard jusqu'à présent. Je ne peux pas trouver le mot féminin. Salopard, je ne sais pas, mais... Mais ce n'est pas la même connotation. Donc, en gros, c'est quand même accepter ça. Alors, tout le monde n'est pas capable de l'accepter, parce que certaines personnes, d'abord dans l'enfance, on a un besoin de plaire à nos parents quand on est petit. On a absolument besoin de plaire à nos parents. Et malheureusement, parfois, quand on grandit, on reste là-dedans. Et on a toujours... Alors, qui dit plaire à nos parents, c'est aussi être parfait, hein, parce que c'est le moyen. L'enfant, il va souvent essayer de se comporter le plus possible en enfant parfait pour faire plaisir à ses parents. Et donc, quelque part, on peut se donner l'illusion qu'on est parfait. Et reconnaître qu'on n'est pas parfait, ça peut être très difficile pour certaines personnes. Donc, quand on est mûr dans sa tête, on sait qu'on a le droit de ne pas être parfait. Puis là, on va se dire, j'ai pas été parfaite, mais je me pardonne. Et je passe à autre chose, c'est-à-dire je change mon comportement. Mais ça, on le trouve dans la viande, et bien sûr, on va le retrouver dans plein de domaines qui n'ont strictement rien à voir avec les animaux. Par contre, si la personne n'est pas capable de se remettre en question, c'est-à-dire de ne pas être capable de reconnaître qu'on a généré tellement de souffrance et qu'on l'a fait finalement de façon en toute connaissance de cause, parce qu'on le savait, ça peut être très difficile. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont continuer. Parce que continuer d'en manger, c'est le meilleur moyen de ne pas s'accuser de ce qui a été fait, de ce qui a toujours été fait jusque-là. Et du coup, on continue comme si de rien n'était. En gros, on met un mouchoir dans la poche, on met le mouchoir dans la poche, puis on n'y pense plus, quoi. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas au fond de nous. Et là, c'est ce que je vais appeler des végés refoulés. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont des végés refoulés. Et les plus flagrants, c'est quand vous avez des personnes d'un ton assez agressif, que, alors vous ne dites rien, peut-être sur votre stand, vous ne dites rien, puis il y a quelqu'un qui passe, qui voit votre banderole. Et puis là, sans trop vous regarder, il va dire souvent, ils sont souvent deux d'ailleurs. Et puis il va dire à l'autre, très fort que vous entendiez, le steak c'est trop bon. Un truc dans le genre, quoi. Ou alors c'est la tradition. Enfin, bon, vous voyez, tous les trucs qui ne tiennent pas la route. Mais en fait, ça, c'est des fausses barbes. Et en fait, ce sont juste des fausses barbes, et c'est vraiment ce que j'appelle des végés refoulés. En fait, c'est mes préférés, parce qu'en réalité, ils sont conscients du problème, et c'est les plus faciles à décrocher. Alors que ceux, justement, qui vous disent « Ah oui, bah oui, je sais bien, ah oui, je sais bien. » Ah, eh bien, ceux-là, accrochez-vous. Donc, ce n'est pas forcément ceux qui nous semblent nous agresser qui sont les plus compliqués. Ah zut, je suis allée trop vite. Donc, voilà, quand la personne, finalement, elle se bloque complètement, en décidant, finalement, enfin, quand je dis qu'elle décide, je ne suis pas sûre que ce soit conscient. Hein. En fait, ce n'est même pas conscient. Donc, elle va juste continuer, comme si de rien n'était, à perpétuer le crime, pour faire comme s'il n'y avait pas de crime. Alors là, on pourrait se dire, mais dans ces cas-là, la situation, bah, elle est bloquée. Eh bien, c'est pas aussi simple. On a probablement des leviers de débloquer. Et moi, je l'ai constaté, c'est sexiste hein, ce que j'ai fait, mais bon, en même temps, c'est un peu vrai. Donc, je l'ai quand même mis, parce que c'est quand même beaucoup vrai. J'ai vraiment constaté que l'argument qui va permettre le plus souvent aux femmes de ne pas se remettre en question à titre personnel, mais de quand même changer son alimentation, ça va être l'argument santé, c'est-à-dire les bénéfices pour la santé. Elles vont lire des choses ou elles vont venir aux conférences là-dessus. Les bénéfices de l'alimentation végétarienne. Alors là, c'est mon petit nombril, moi-je, moi-moi. Ça, c'est l'apparence. Mais j'ai remarqué que la plupart du temps, c'est l'apparence qu'on veut donner à l'extérieur, qu'on veut se donner, mais qui n'est pas forcément la réalité. Et la personne elle-même, d'ailleurs, n'est pas forcément consciente. D'ailleurs, elle est rarement consciente de ça, que ce n'est pas forcément ce qu'elle pense au fond d'elle-même. Mais elle a besoin de passer par là. Et les hommes, le plus souvent, ça va être les bénéfices pour l'environnement. Alors maintenant, ce n'est pas figé. Hein. Vous avez des femmes, ça va être l'environnement, et des hommes, ça va être la santé. Hein. Mais quand même, proportionnellement, ça va être plus comme ça que je vais le retrouver. Oh, crotte. Donc, en fait, ça fait comme si certaines personnes avaient besoin de passer par ces alibis pour s'autoriser à changer ses habitudes. Mais ce qui est le plus extraordinaire dans tout ça, c'est qu'une fois que c'est fait, une fois qu'elles ont changé leurs habitudes ou leur mode de pensée, parce que parfois ça peut être avant de passer à l'acte, mais elles ont déjà creuser la question que finalement manger de la viande, bah, soit c'est pas bon pour la santé, soit c'est pas bon pour l'environnement. Et elles ont déjà commencé à cogiter que ce serait peut-être bien quand même de changer l'alimentation. Mais parfois elles ont déjà passé l'acte. Et là, à ce moment-là, bah, c'est pas rare du tout que ces mêmes personnes qui, au départ, ne voulaient pas entendre du tout parler des animaux, qui voire parfois vous disaient je m'en fiche, bah, à ce moment-là, elles-mêmes, moi ça m'est arrivé d'en retrouver sur des stands de protection animale après. Alors que je les avais vus quelques temps avant, alors vraiment, ils foutaient en moyen les animaux. Quoi. Donc vraiment, ça m'a fait penser à un moment que ça faisait comme si ces personnes avaient besoin de ces alibis pour aller plus loin, pour s'autoriser à penser autrement. Maintenant, on va voir un autre conflit qu'on peut vivre au fond de soi. Quel conflit de loyauté envers ses parents. Donc nous aussi, on a franchi le pas. Donc pour nous, ça ne va pas forcément nous paraître fondamentalement difficile. Mais pour certaines personnes, c'est carrément impossible. Si je prends mon exemple, me braquer avec mes parents, je m'en fichais, parce qu'à l'adolescent, je passais mon temps à me braquer avec. Donc un peu plus, un peu moins. Alors, de toute façon, je ne me suis même pas posé la question de est-ce que ça va les braquer. Je m'en foutais. Mais vous avez des personnes qui ont un besoin absolu d'une part, de ne pas remettre en question ce que sont leurs parents, et d'autre part, de ne pas leur déplaire. Donc c'est même deux choses fondamentalement différentes. Mais en tous les cas, si on prend l'éthique, entre accepter l'argument éthique et passer à l'acte de changer d'habitude alimentaire, on est quand même obligé à un moment de passer par la case nécessité de remettre en question notre éducation. On le veuille ou pas, on est obligé de passer par là. C'est-à-dire, il n'y a pas de souci, on peut tuer comme ça. Et donc, là encore, si on est mature, ou ce que je dis entre guillemets adulte, c'est accepter d'une part que nos parents ne sont pas parfaits, accepter d'autre part qu'ils ont le droit, comme tout le monde, de se tromper parce que finalement, ce n'est pas des dieux. Et puis, troisièmement, c'est donc d'accepter et de reconnaître que nos parents ont été des commanditaires de mise à mort alors qu'il n'y avait pas nécessité. En gros, c'était des salauds. Je parle crûment, mais si je résume, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui tue alors qu'il n'y a pas besoin de tuer ? C'est vachement dur de se prendre ça dans la figure et de reconnaître que nos parents ont fait ça. Et il y a un moment, il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire, quoi. Si on prend le premier point, accepter que nos parents ne sont pas parfaits, j'ai une personne très proche de moi, une fois, ça n'avait rien à voir avec tout ça. Et une fois, je lui pose la question, je lui dis, au fait, tes parents, c'est une conversation tout à fait normale, tes parents, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'ils fassent différemment de ce qu'ils ont fait quand tu étais gamin ? Il réfléchit, puis il me dit, rien. Je dis, quoi ? Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien que tu aurais aimé que tes parents fassent différemment ? Non, non, rien. Évidemment, ce n'est pas possible. C'est totalement impossible. En tant que gamin, on a forcément connu des moments de grande frustration, voire de colère, voire de grande tristesse, parce que nos parents ont fait des choses qui nous ont blessés. C'est inévitable, les parents parfaits n'existent pas. Sauf que cette personne-là, elle ne s'autorisait aucunement de critiquer ses parents ou de reconnaître que ses parents n'étaient pas parfaits. Je ne sais pas dans lequel il se situait, mais reconnaître que, accepter que ses parents n'étaient pas parfaits, pour certains, le monde s'écroule. Hein. Parce qu'ils ont un besoin de... C'était quand même les piliers qui l'ont fait grandir. Bon, donc, pour nous, encore une fois, ça peut nous paraître loin, tout ça, parce que nous, on l'a fait, on a franchi ce cap. Mais vraiment, il y a des personnes pour qui ce n'est pas possible. Ou alors, elles vont y arriver, mais par des moyens détournés. Ou alors, l'idéal, c'est qu'elles aillent faire une psychothérapie, mais ça, on ne peut pas maîtriser. Donc, en gros, la question, c'est est-ce qu'on est tous réellement adultes ? Ce n'est pas parce qu'on a 40 ans, 50 ans, 60 ans ou même 20 ans qu'on est adulte. Parce qu'on peut continuer toute sa vie de se comporter avec des mécanismes qu'on a mis en place dans l'enfance. Donc, est-ce qu'on va s'autoriser à critiquer nos parents ? Quand je dis critiquer, c'est dans le sens négatif et positif, parce qu'on peut aussi reconnaître qu'ils ont fait des choses très bien, mais ça n'empêche pas qu'ils ont fait des choses moins bien, et qu'ils avaient le droit de faire des choses moins bien, parce qu'on a tous le droit de nous tromper, on a tous le droit à l'erreur, et que, ils ont fait des choses moins bien, mais bon, de toute façon, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu, avec leur éducation, et voilà, puis ils ne pouvaient pas faire autrement. Ensuite, est-ce que se poser ces questions-là, est-ce que c'est tabou pour certains d'entre nous ? Et moi, je pense vraiment que oui. Et puis ensuite, est-ce qu'on a tous cette force de caractère ? Parce que forcément, ça va nécessiter de la force de caractère que d'aller se poser ces questions-là. De la même façon que pour ce qu'on a vu tout à l'heure, la remise en question personnelle, là aussi, ça va demander de la force de caractère d'accepter de se regarder vraiment en face, quoi. Qui je suis, qu'est-ce que je fais et quelles sont les implications de mes actes au quotidien. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas justement s'autoriser à critiquer leurs parents, qui ne peuvent pas accepter qu'ils n'étaient pas parfaits ou qui n'ont pas la force de caractère d'ouvrir les yeux là-dessus, c'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Ils sont d'accord, c'est pas bien de nuire aux animaux qui nous ont rien fait, mais je continue quand même. Parce que je ne peux pas remettre en question tout ça, donc je vais me trouver plein d'excuses. C'est la tradition, c'est ci, c'est ça, c'est tout ce que vous voulez. Mais depuis la préhistoire, depuis la nuit des temps, mais la santé, enfin bon, il y avait plein de choses, mais je continue. Et là, je remets la citation donc, de Philippe Laporte, cette fois-ci, qui est complète, hein, parce que là, j'ai rajouté ce qui concerne les parents. Hein. Donc toujours pareil, renoncer à la viande et aux autres produits animaux, parce que l'on a pris conscience de la souffrance que cette exploitation induisait dans le monde animal, c'est en fait s'accuser de toute la souffrance qu'on a infligée aux animaux jusqu'au moment de la décision. Et en fait, c'est également aussi accuser ses parents, et donc l'éducation qu'ils nous ont donnée. Voir éventuellement, si on a déjà des enfants, ben c'est aussi ce que nous-mêmes, on a fait jusqu'à présent avec nos enfants. Donc, ce qui sous-entend qu'on n'était pas forcément des bons parents. Ben là aussi, ce n'est pas facile à se prendre dans la figure non plus. Donc, là encore, s'il y a impossibilité de remise en question de l'éducation des parents, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va occulter le problème, puis on va continuer comme si de rien n'était. Comme ça, si le crime est perpétué, il n'y a pas de crime. Et j'ai fait un parallèle avec l'excision. Sur Arte, il y a quelques années, il y a un documentaire très dur qui est passé sur l'excision. Je dis très dur parce qu'en fait, ils filmaient dans une... Donc c'était en Afrique, forcément. Je ne sais plus où, d'ailleurs. Puis peu importe. Enfin, on voyait une petite fille qui était en famille. Vous savez, il y avait les cases. Elle était en famille. Et les jours qui précédaient, elle était très contente. Très, très contente parce que l'excision allait avoir lieu et elle allait pouvoir aller à l'école. Parce qu'en fait, on lui avait dit que quand... quand l'excision est faite, ben c'est une grande, elle peut aller à l'école, etc., etc. Mais elle était contente, elle était super contente et tout. Donc au moment d'aller dans la case où allait se passer l'acte, j'ai du mal à vous en parler, je suis désolée. Je suis toujours vraiment désolée, c'est bon. Ses parents l'ont, enfin sa mère, l'a emmenée. Ça se fait sans anesthésie, évidemment. C'était des cris épouvantables. Des douleurs atroces. Et les jours qu'on suivit, on la voyait avec des douleurs atroces. Pour uriner, c'était des douleurs épouvantables. Enfin, bref. Et là, je me suis dit, mais la gamine, imaginez la trahison. Sa propre mère qui l'a emmenée. Sa propre mère qui a vécu ça elle-même. Mais il continue. Parce que le fait de continuer fait que ça évite de se remettre en question soi-même. Je peux continuer, je le fais, comme ça j'ai pas été moi-même, mes parents n'ont pas été coupables. Et donc on continue allègrement tout ça. Et pourtant tout le monde sait que c'est pas bien. Et alors la gamine après elle ne voulait plus aller à l'école. Logique. Et donc je pense que pour l'exploitation animale, profondément, beaucoup d'entre nous, on est conscient de ça. Mais on se met des défenses, voilà, par rapport à l'éducation qu'on a et par rapport aux générations précédentes. Donc on va continuer dans la perpétuation du crime. Alors là aussi, est-ce que la situation est toujours bloquée ? Ben, pas forcément. Pas forcément parce que intuitivement, donc sans nécessité de se remettre en question, ce qu'on sait, c'est que, au fond, nos parents, c'est la deuxième case, la case orange, nos parents ou nos grands-parents, je me trompe de diapo, c'est la case, c'est la case numéro 3, excusez-moi, la verte. Intuitivement, c'est très bien que nos parents ou nos grands-parents, ils n'étaient pas censés savoir que manger de la viande, c'était pas bon pour la santé et c'était pas bon pour l'environnement. Donc ça, on peut tout à fait remettre ça en question. On n'a pas l'impression de les trahir. Ils avaient le droit de ne pas savoir. Ils avaient le droit de ne pas savoir aussi que la cuisine végétarienne, c'est très bon, etc., etc. Par contre, intuitivement, s'il y a une chose qu'on sait au fond de nous, c'est qu'ils ne pouvaient pas ignorer que pour manger de la viande, quand ils achètent leur poulet, il y a forcément eu l'acte de tuer. Et ça, on sait qu'ils le savent. Et il y a une autre case supplémentaire, c'est les grands-parents ou nos propres parents, parce qu'on peut être, vous savez que soit la génération de nos parents ou même la génération de nos grands-parents, on est quasiment tous, je suppose, issus de paysans. c'est-à-dire des personnes qui ont elles-mêmes exploité et tué elles-mêmes les animaux. Donc forcément, ça peut être encore plus fort si on est dans ce cas-là. Et donc tout ça fait qu'on va mettre en œuvre des moyens de bloquer tout ça parce que c'est trop dur comme remise en question pour certaines personnes. Donc là aussi, on peut avoir besoin de repasser par la case alibi santé ou l'alibi environnement, en fonction de si on est un homme ou une femme. Mais encore une fois, c'est pas figé, hein, ça peut être dans les deux. Voire gastronomie, parce que je connais un homme, lui, il est devenu végé par la cuisine. Lui, c'était la cuisine qui intéressait. Je suis profondément au fond de lui, je suis pas convaincue. Mais il a eu besoin de ça pour y aller. Donc voilà, donc ça se passe comme si vraiment certaines personnes avaient besoin de ces alibis pour remettre en question l'éducation reçue par leurs parents, c'est-à-dire mettre à mort des animaux sans nécessité. Et pourquoi ces personnes, même si on leur dit rien, elles vont souvent nous agresser ou se ficher de nous? C'est parce que le fait qu'on est là, qu'ils savent qu'on est végé, ou qu'ils nous voient manger végé, on est donc la preuve vivante qu'il n'y a pas de nécessité pour tuer l'animal. Ça, évidemment, ça les met profondément mal à l'aise. Parce que là, et c'est inconscient, mais ça leur renvoie vraiment de plein fouet que leurs parents ont fait ça alors qu'il n'y avait pas de nécessité de le faire. Et donc, là encore, on va rejoindre comme tout à l'heure pour la remise en question personnelle. Bah, une fois qu'elles ont changé leurs habitudes par rapport à ces alibis, hop, à ce moment-là, elles vont plus facilement accepter d'aller sur l'éthique. Et moi, j'ai une personne très proche de moi, deux personnes de ma famille, qui ont eu besoin des arguments, enfin des alibis environnement. Dont une, ma propre sœur, qui a été végée pendant un an, il y a 20 ans de ça à peu près, parce que je l'avais culpabilisée avec tout ce qu'on faisait souffrir aux animaux. J'avais 4 ans de plus, j'avais 23 ans, elle en avait 19, donc c'était facile d'user de ma supériorité d'âge, n'est-ce pas? Je me rappelle d'une fois, le périphérique à Paris, il y avait une double bétaillère qui ramenait des veaux d'Irlande. Il faisait chaud, puis j'avais dit, regarde ces pauvres veaux avec la chaleur et tout ça pour qu'il y en ait qui les mangent. Voilà, j'étais vraiment dans la colère, dans... Alors bon, ouais, là, elle était devenue végé. Seulement, c'était pas quelque chose qui était au fond d'elle. Parce qu'elle avait des, je l'ai compris après, des blocages de type loyauté envers mes parents. Enfin, envers notre père, plus précisément. Donc, elle a saisi toutes les occasions pour se trouver des excuses pour arrêter d'être végé. Ah, je digère pas les lentilles. Ah, il y avait ci, il y avait ça. Puis au bout d'un an, elle n'était plus végé. Et ça a duré je ne sais pas combien d'années. Et en fait, alors non seulement ça, mais plus on parlait éthique, et plus elle se mettait en colère. Il y a même une fois, on faisait des réveillons végés tous les ans à la maison, et un copain qui est militant PMAF, délégué, qui était... et pourtant, c'est quelqu'un qui n'est pas... c'est un mec qui est très psycho, donc justement, c'est pas le rouleau compresseur et tout. Donc c'était assez soft. Et elle est rentrée dans une colère. Ouais, vous me faites... En gros, c'était vous me faites chier avec ça... de toute façon, plus vous allez en parler et plus je vais continuer d'en manger. En gros, c'était ça. Et alors que c'est quelqu'un qui aime les animaux. Et non seulement qu'il les aime, mais qu'il ne supporte pas de voir souffrir un animal, etc. Et en fait, il a fallu des années et des années. On est allé voir Notre pain quotidien. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, ce film, qui est un film très puissant sur l'industrie agroalimentaire. Il est très puissant parce qu'il n'y a pas de commentaires, pas de musique. Donc on est face à soi-même. Il est très bien fait parce qu'ils intercalent des images de production végétale intensive et de production animale intensive, évidemment abattoir. Et comme tout est intercalé, dès que les scènes deviennent trop fortes pour ce qui est des animaux, on rebascule sur le végétal, voire l'exploitation des mines de sel. Enfin voilà. Et en plus, c'est des images très esthétiques. Il avait gagné le prix du film d'environnement européen. Donc on est allé voir ce film. Moi, je vais toujours voir ces films, c'est pour choper le micro dans le débat, pour profiter qu'il y ait beaucoup de monde présent sur ces films pour amener mon petit grain de sel. Et j'étais très étonnée parce que ma sœur a été la première à prendre le micro. Vous savez tous que c'est très difficile de prendre le micro en public. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi ce qui me choque profondément, c'est qu'on traite les asperges avec plus de précautions que les poussins. Donc vous voyez bien que l'éthique, elle l'avait au fond d'elle. Elle le savait. Ça faisait 20 ans que je lui en parlais. Et en plus, comme j'ai fait une formation en lycée agricole, sciences agronomiques et techniques, je lui en ai raconté des techniques d'élevage et d'abattage, etc. Enfin, surtout d'élevage. Elle le savait tout ça. Mais avant d'aller voir ce film, elle avait en fait bien diminué la consommation par rapport à l'environnement. Puis la santé aussi. Mais elle n'était pas végé. Et mon beau-frère, qui passait son temps le soir, en fait, c'était végé tous les soirs chez eux. Et il n'arrêtait pas de se ficher d'elle, de la faire chier. Ouais, c'est végé, machin. Le jour où il a vu ce film, parce qu'il est venu, elle m'a dit après, tu sais, hein, il ne m'a plus jamais emmerdé parce que c'était végé. Alors, il n'est pas végé pour autant, mais il est végé à la maison, ce qui est déjà énorme, parce que j'ai su, il n'y a pas si longtemps que ça, que lui, il a un méga conflit de loyauté. Son père était boucher, moi, je ne le savais pas. Ce que je savais, c'est qu'il a perdu son père quand il avait 2 ans, donc il a mon âge. Et son père est mort au volant de la bétaillère qui partait à l'abattoir. Alors, imaginez le conflit de loyauté, comment j'ai pu m'en prendre plein la tronche quand il venait. Il était tout le temps dans la provoque, etc. Plein conflit de loyauté. Mais déjà, le fait d'avoir vu... avant, il y avait eu le travail de ma sœur sur l'impact environnement, l'impact santé, machin. Donc ça avait déjà préparé un peu le terrain. Puis là, il s'est pris de plein fouet les images et il a arrêté de la faire chier. Mais comme quoi, c'est pas aussi simple que ça d'avoir juste l'éthique. En fait, ce qu'on sait, c'est que statistiquement, il n'y a que 10% des Français qui vont choisir leur alimentation en fonction de l'altruisme. Là, c'est l'alimentation, mais je suis sûre que ça va être la même chose pour les vêtements, pour l'énergie, pour tout. Pourquoi les gens vont sur les énergies alternatives? C'est pas tellement pour pas polluer, hein, c'est parce que c'est subventionné, quoi. Tant que c'était pas subventionné, il n'y avait que quelques-uns qui le faisaient, hein. Donc voilà, donc là on va se retrouver avec... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de préciser qu'on changeait de domaine, excusez-moi. Là c'est la peur de sortir de la norme, la normalité. Donc voilà, donc il n'y a que 10% des Français en gros qui vont... Alors, je vais enlever le mot alimentation. En gros, 10% des Français choisissent leurs actes d'achat par rapport à l'éthique, donc l'altruisme. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus les motivations vont s'éloigner de l'égoïsme, et moins ils sont répandus. En fait, c'est assez proche avec le premier point. Et puis un autre point très important, c'est qu'on le veuille ou pas, on vit dans une société de consommation à outrance. Et la société de consommation, qu'est-ce qu'elle inculque? Ben, elle inculque à chacun... Elle suscite le besoin d'être comme tout le monde, c'est-à-dire d'avoir le dernier cri, d'avoir la voiture plus belle que celle du voisin, d'avoir le truc. Vous voyez, c'est non seulement l'esprit de compétition, mais c'est aussi l'esprit d'avoir les baskets de marque, d'avoir, voilà, pareil comme les autres. Et là où c'est particulièrement flagrant, c'est les adolescents. Mes enfants ne sont pas encore adolescents, mais j'ai quand même eu pas mal de choses comme quoi ils font souvent des scènes à leurs parents parce qu'ils veulent les baskets de telle marque, le truc de telle marque. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas comme les copains, ils sont foutre d'eux. Et puis ils ont un besoin profond d'être comme les copains. Et spontanément aussi, quand il y a quelqu'un qui n'est pas comme les autres, c'est souvent celui-là qui va être le bouc émissaire dès que quelque chose ne va pas aller. On va trouver ça dans les classes scolaires, on va trouver ça... Mais en tous les cas, c'est généralement celui-là. Alors, soit il n'est pas beau, soit il a les oreilles décollées, soit... Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose qui va expliquer que c'est celui qu'on va choisir sur lequel on va choisir de se défouler. Moralité, ben, globalement, on a une peur au fond de nous qui est de s'isoler des autres, s'isoler socialement. Et donc, en fait, on a peur de la rupture sociale. Donc, pour nous, ça a été une peur qu'on a tous surmontée, puisqu'on a franchi le cap. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à la surmonter. Qui restent un petit peu, bah, comme à l'adolescence, faut que je sois comme tout le monde pour ne pas sortir de la norme. Et j'ai fait un parallèle avec l'écologie. Alors, j'ai mis écologie plus, parce que c'est-à-dire, vous savez, c'est les écologistes purs et durs, toilettes sèches, machin, bidule. Alors, mon mari, d'ailleurs, il voulait nous mettre des toilettes sèches à la maison. Et moi, j'adhérais complètement au concept, ça n'est pas le problème. Mais je lui ai dit, je le reconnais, hein, je lui ai dit, écoute, je préfère pas, parce que déjà, on est végé. Alors, les gens qui viennent à la maison, je lui ai dit, qu'on ait que les toilettes sèches sans être végé, c'est une chose. Mais qu'on soit végé sans les toilettes sèches, c'est une autre. Mais les deux ensemble, je lui ai dit, j'ai peur quand même qu'on soit perçu comme des... Comment dire, des... je ne sais plus comment on dit, Merginaux, voilà, merci. Et j'avais peur en fait que ce faisant, que ça desserve le végétarisme. Je n'avais pas envie que, que le végétarisme soit perçu comme quelque chose de marginal. Parce que comme fondamentalement, globalement, on a peur de s'isoler des autres, alors si en plus je rajoute une couche comme quoi être végé c'est marginal, je crois que je ne vais pas aider les personnes dans cette peur à y venir. Donc du coup, on a pris la décision de maintenir nos toilettes normales, ce qui fait moins de travail d'ailleurs, soit dit en passant. Bon, on ne s'empêche pas qu'on a fait d'autres choses de type écolo, mais... mon mari, qui soit dit en passant, a eu un moment de sa vie besoin de l'argument environnement hein, pour le végétarisme. Alors que tout petit, il me l'a dit bien après, il avait été choqué par son grand-père qui avait étranglé sous ses yeux un petit oiseau, vous savez, nuisible. Donc, hop. Il avait refoulé ça très 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 loin dans sa mémoire. Et je pense que s'il est devenu végé à mon contact, je pense que c'est pas parce que moi j'ai converti à être végé. Je pense que fondamentalement, il l'avait au fond de lui. Simplement, son éducation l'a empêché de l'être. Alors, pour la petite précision, mon mari est briéron. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent, parce qu'on en parle dans les médias de temps en temps. La Brière, parc naturel de Brière, parc régional de Brière, c'est là où il y a les chasseurs les plus... Un peu comme dans le nord, ça s'appelle comment, là, où ça pétarade aussi pas mal, sur les plages. Enfin bref. C'est des chasseurs purs et durs qui n'hésitent pas à foutre le feu, à tuer éventuellement. Enfin, c'est pas détendre. Donc, et c'est aussi des pêcheurs. C'est-à-dire qu'ils prennent des chalands, c'est des marais, et ils chassent l'anguille avec une espèce de fourche. Mon mari a chassé a pêché avec son père. Donc ça veut dire que vouloir être végé, ça voulait dire je ne vais plus aller à la pêche avec mon père. Je ne vais plus lui faire plaisir, parce que son père adorait emmener son fils à la pêche. Donc c'est quand même des choses qu'on ne se rend pas compte, mais c'est énorme hein, ce que ça peut impliquer. Donc mon mari a eu besoin un moment de passer par le côté environnemental pour se justifier que c'était le bon choix. Et puis maintenant, il est militant de la cause animale. Oui, mais quand je dis environnemental, c'est le côté effet de serre, c'est-à-dire produire de la viande, c'est générer d'effet de serre, c'est gaspiller l'eau, c'est enlever les ressources des pays du Sud pour 800 millions de tonnes de céréales de détournées pour nos élevages, etc. C'est ça. Après, il y a trop d'anguilles, honnêtement, c'est plutôt le contraire, parce qu'il y a du braconnage sur la civelle qui est le bébé de l'anguille. Non, non. Enfin, quand je parle d'environnement, c'est plutôt les grands aspects. Hein, c'est, voilà. Donc là, j'arrive sur une autre peur qui est la peur du risque de rupture familiale. Donc en gros, là aussi, il y a des choses qui vont se jouer au niveau des parents. C'est qu'en fait, de façon intuitive, inconsciente, imaginez-vous, vous êtes des parents et votre gamin, vous êtes viandard, hein. Vos parents étaient viandards, vos parents tuaient les animaux éventuellement, voire étaient chasseurs, ou le plus souvent pêcheurs, parce qu'il y a quand même plus de pêcheurs que de chasseurs. Donc vous êtes comme ça, voire même vous êtes pêcheur. Tiens, on va dire que vous êtes vous-même pêcheur ou chasseur. Et votre fiston vient vous voir un jour et vous dit « Oh tiens, ça y est, je suis végé. » Alors là, de façon inconsciente, il est quand même probable que vous vous sentiez considéré par votre propre enfant comme un meurtrier. Parce que si votre fils, il dit « Moi, je suis végé parce que je ne veux pas tuer et je ne veux pas qu'il y ait des animaux qui soient tués pour moi », si vous, vous continuez de manger de la viande, de façon inconsciente, ça revient... Voilà, le parent, qu'on le veuille ou pas, le parent, il peut se sentir accusé de meurtre. Hein, c'est quand même pas facile à se prendre dans la tronche. Hein. Par ailleurs, il y a un autre truc qui va se jouer au niveau des parents, c'est que pour un peu qu'ils avaient eux-mêmes un gros respect pour leurs propres parents, ce qui était souvent le cas de cette génération-là. Cette génération a été élevée dans le grand respect de leurs propres parents. D'ailleurs, il n'était pas rare qu'ils vouvoyaient leurs parents. Moi, je suis issue d'une famille très pauvre, et ils vouvoyaient leurs parents. C'était des paysans, Quand je dis paysans, ils avaient une vache et deux, trois chèvres. Hein. Mais avec ça, ils faisaient vivre les six enfants. Je ne parle pas de mes parents, je parle de mes grands-parents. Ils vous voyaient. Et c'était une famille extrêmement pauvre. Donc, un très grand respect des parents. Donc, nos parents à qui on annonce qu'on devient végé, eux-mêmes ont ce grand respect de leurs parents. Et là, pour eux, ça peut être insupportable que leur fils ou leur fille accuse de façon, même si c'est pas formulé, dans les faits c'est ça, leurs propres parents d'avoir été des meurtriers et donc, je le disais tout à l'heure, des salauds. Alors là, ils peuvent carrément ressentir un gros sentiment de trahison parce que eux, les valeurs que leurs parents ont transmises, qui se sont appropriées, ce qui est assez logique, généralement, on va prendre beaucoup de valeurs de nos parents, là, ça peut être vachement dur. Quoi. Et donc, du coup, ces parents-là, il peut arriver que dans ces cas-là, ils vont mettre en place un mécanisme d'autodéfense, parce que vraiment, c'est insupportable, et de se sentir accusé, et que leurs propres parents ont été accusés. Donc, à ce moment-là, ils vont mettre un mécanisme d'autodéfense, ils vont rentrer dans des colères, voire de la rancune. Et ça peut arriver que dans certaines familles, ils vont en faire voir de toutes les couleurs au gamin qui a choisi de devenir végé. Maintenant, il se peut aussi, quand je dis gamin, ça peut être un adulte, hein. Il se peut aussi que cette personne qui en prend plein la vue par ses parents parce qu'il est devenu végé, il est probable quand même que bien avant ça, il y a sûrement eu d'autres conflits sur d'autres trucs. Simplement, ça vient exacerber les conflits précédents. Donc voilà, donc ça peut expliquer ce mécanisme que vous avez parfois des parents dans la hargne envers leur propre enfant. Mais généralement, au bout d'un moment, si on a la sagesse, entre guillemets, d'accepter que pour eux, ça peut être très dur à avaler ce qu'on fait, de faire la rupture des valeurs familiales, si on arrive à l'accepter, donc à patienter, et de pas de mettre d'huile sur le feu, probablement, au bout d'un moment, ça va finir par se calmer, ça peut prendre des années. Il y a un truc d'ailleurs pour illustrer ça, peut-être que certains d'entre vous ont lu le livre « Comment j'ai tué mon père ». Ça se passe pendant la préhistoire. Donc la préface, c'est Théodore Mounot qui l'a fait. Enfin, en gros, le livre, ça se passe à la préhistoire. Et puis donc, il y a un mec qui s'est dit « Tiens, je vais apprivoiser le feu ». En gros, c'est ça. Puis alors là, vous avez, je vous dis pas, il connaissait pas le feu. Hein, donc, en tous les cas, il le connaissait, mais il le maîtrisait pas. Et là, vous avez deux clans. Il y a le clan des progressistes et puis les autres qui disent « Ah, ça va pas la tête. Jusqu'à présent, on n'a jamais maîtrisé le feu, on va quand même pas se mettre à le maîtriser. Ben, » il y a longtemps que j'avais ce livre, alors, je me trompe un peu, mais ceux qui l'ont lu, si vous pouvez m'arrêter si c'est pas ça, mais je crois qu'en gros c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, je pense que ce mécanisme, depuis la nuit des temps, il se joue. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un est en méga rupture avec ce que fait la société, il s'en prend plein la tranche. Alors évidemment, si c'est le végétarisme, ça ne va pas déroger à la règle, mais c'est le cas pour tout. Donc en fait, on va arriver à une autre peur, qui est cette fois-ci la peur de ne pas plaire à ses parents. Donc ça j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, donc les besoins quand ils sont petits, les besoins des enfants quand ils sont petits, c'est de plaire à leurs parents. Et donc, du coup, ils vont agir le plus possible en enfant parfait. Et si bien que si on n'a pas grandi par rapport à ça, comme on devrait le faire une fois adulte, pour certaines personnes, ils ne pourront jamais se résoudre à ne pas se comporter en enfant parfait envers leurs parents. S'ils auront, là en l'occurrence, mangé de la viande, là ça va être une trahison envers leurs parents, donc ils pourront pas. Donc voilà, ils vont se mettre plein de blocages. C'est trop bon le steak, c'est la tradition, c'est machin, c'est bidule, je vais mourir. Mais en fait, c'est juste un blocage. Il y a aussi la vie professionnelle. Alors celle-là, elle est pas forcément, évidente du premier abord, mais elle est pourtant importante. On est quand même dans une société, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on survalorise les prédateurs. Quand vous voyez des documentaires animaliers, je n'ai pas fait des statistiques précises, mais la plupart du temps, ça concerne des prédateurs, la majorité des cas. non seulement ça concerne... Alors, c'est peut-être écrit trop petit, non, ce que j'ai mis ? Voilà. Donc, je vais vous les lire. Donc, on va commencer par la colonne des prédateurs. Donc, d'abord, tout est mis en œuvre pour glorifier le statut de prédateur. Deuxièmement, on va dire que le prédateur, il a un rôle indispensable de régulateur. Donc, on ne le remet pas en question. Non seulement, on ne le remet pas en question, en plus, on ne peut pas s'en passer. Ensuite, dans les reportages animaliers, ces prédateurs, eux, très souvent, ils ont le droit à un statut d'individu. Et souvent, on leur donne des noms. Et on va suivre la famille, la mère léopard, bouillonne, qui va élever ses gamins, le père lion, etc., etc. Alors, ils ont des noms, tac, tac. Donc, c'est vraiment des individus à part entière. Et là encore, grosse manipulation. Parce qu'en fait, dans la nature, la plupart du temps, les prédateurs, ils échouent quand ils attaquent, entre guillemets, une proie. Mais ça, on nous le montre très peu. De temps en temps, on va nous le montrer. Mais la plupart du temps, on va nous montrer les attaques qui fonctionnent. Donc ça fausse vachement la perception du spectateur. Hein, qui du coup, ça induit que le prédateur, il est super fort en fait. Il est même vachement fort parce que pratiquement tout le temps, ça marche. Mais dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Il peut crever de faim parce que ça échoue, je ne sais pas. Voilà, mais ça, on ne va pas le dire. Et de l'autre côté, vous avez... Alors, j'ai mis entre guillemets les proies, parce que je déteste ce mot, parce qu'on réduit l'animal qui est une proie à son statut de proie. Ce n'est plus un animal, c'est juste une proie. Alors, c'est ce que j'ai mis ici. Généralement... Alors, bien sûr, il y a peu de reportages sur eux. Généralement, on ne va pas leur donner des prénoms. Ce ne sont pas des individus, ce sont des troupeaux. Des troupeaux qui sont bien sûr des réservoirs de nourriture pour les prédateurs. Donc ils sont là juste pour... voilà. Puis heureusement qu'il y a les prédateurs, parce qu'ils peuvent enlever les animaux malades, travailler, travailler. Et en gros, donc, il est là pour être mangé. Voilà. On a ça qui est inculqué par les documentaires, par l'école, par tout ce que vous voulez. Donc si vous êtes dans une branche professionnelle... Dans la compétition, en gros, de façon très schématique, il y a deux types de branches professionnelles. Celles qui vont être dans la compassion, c'est très schématique, hein, et l'autre dans la compétition. Alors dans la compassion, quand je dis compassion, ce n'est pas vraiment le mot, mais c'est vraiment pour faire du schématique. On va pouvoir mettre évidemment le personnel soignant, les médecins, les infirmières, patata, les profs, pas forcément de la compassion, mais en tous les cas, on est dans la relation à l'autre. On peut mettre les avocats qui vont défendre des personnes, des victimes, etc. On peut mettre tout ce genre de profession. Et vous avez les autres professions, la compétition. Et là, il y en a un paquet. Vous avez bien sûr tout ce qui est commercial. Vous avez un truc aussi con que caissière chez Leclerc, que vous le vouliez ou pas, vous êtes dans la compétition. Parce qu'il faut faire très vite. Et si vous ne faites pas assez vite, on vous fait comprendre qu'il y a un paquet qui attend à côté pour prendre votre place. Donc même un boulot aussi anodin que caissière chez Leclerc, vous êtes dans la catégorie compétition, même si vous ne le voulez pas. Vous avez, si on reprend la profession d'avocat, vous allez avoir les avocats d'affaires. Ce n'est pas du tout la même chose que les avocats qui vont défendre les victimes, etc., etc. Donc quand on est dans une profession, dans la compétition, souvent pas choisi, c'est pas quelque chose qu'on assume forcément. En gros, si on dit, moi je suis végé parce que je trouve que c'est pas normal de manger les animaux, machin. Ouais, je caricature, hein, mais en gros c'est ça. En gros, ça va vouloir dire, je suis contre la loi du plus fort. J'estime, parce que c'est pas parce que je suis plus forte que je dois mettre un poulet en élevage, l'enfermer tout petit et donc m'approprier le droit de le tuer juste comme ça pour mon plaisir et de l'enfermer avant. Mais en fait, quand on dit ça, si on fait partie d'une branche de compétition, implicitement, ça revient à dire je refuse les règles du jeu de cette entreprise. Et là, y en a pour qui ça va franchement pas être facile, surtout si c'est une branche où le chômage est très élevé. Donc ça aussi, Évidemment, ça, c'est plus souvent, c'est inconscient, hein. Mais ça peut faire que des personnes qui se trouvent dans ces branches-là, au fond d'elles, elles aimeraient bien être VG, mais peut-être que là aussi, elles auront vachement du mal à l'assumer. Et donc, du coup, elles auront peut-être besoin aussi de passer par des alibis, y compris auprès de leurs collègues. Non, je ne mange pas de viande, mais mais c'est meilleur pour ma santé. Voilà, parce que ça va être vachement plus facile à il n'y a pas se prendre, il n'y a pas être mis de côté parce que il ne joue pas les règles du jeu, lui. Il n'est pas comme nous. Hein? Donc voilà, ça peut être plus facile aussi pour ça. Et puis il y a un autre truc, mais là qui concerne que les hommes, mais je pense qu'il est également très important, c'est la peur de renoncer à sa virilité. Et là, je reprendrai la diapo sur les prédateurs, hein, parce qu'évidemment, tout ce qui est inculqué... c'est facile, on prend la pub Charal. C'est Charal, je crois, ou c'est un prédateur qui court... Qu'est-ce qui est fait là? Valoriser le côté virilité. C'est ça, en fait. Hein. C'est complètement insidieux, parce qu'il est bien évident qu'aucun homme qui achète, qui mange de la viande, court après son animal, l'antilope, met ses petites dents dedans et le mange. Hein. Donc voilà, c'est complètement insidieux, mais n'empêche que c'est là. Il y a une grosse peur de perdre la virilité. Alors, en plus de ça, on est dans une société où, là aussi, la virilité, c'est important d'être viril. Il n'est pas tellement de questions. Les valeurs qui prédominent dans notre société, on ne peut pas dire que ce soit les valeurs féminines. C'est quand même les valeurs masculines. La compétition, j'aime pas aussi dire que la compétition serait des valeurs d'hommes et puis la compassion des valeurs de femmes. Mais je schématise, que je suis un petit peu quand même obligée de schématiser, mais il fut une époque... avant que ce soit les religions monothéistes qui prédominaient, où c'était les valeurs féminines qui dominaient, en fait. Et ce n'était pas du tout les mêmes sociétés que maintenant. Et quand les religions monothéistes sont arrivées, c'est les autres valeurs qui ont prédominé, en fait. Alors là, ça pourrait peut-être être intéressant de communiquer sur la virilité. C'est pas sur la virilité, mais sur la peur de perdre la virilité, c'est-à-dire de rassurer... avec des images ou ce qu'on veut, peu importe, ou des, mais en gros des images de sportifs bien baraqués, comme quoi c'est très cliché, hein, mais juste histoire de rassurer monsieur que non, il ne va pas perdre sa virilité parce que il renonce à la viande rouge et au poulet et au poisson, etc. Moi, je pense que parfois, c'est pareil. Jusqu'où aller? C'est pas facile de trancher. Parce qu'on est face à une industrie agroalimentaire qui a des moyens publicitaires et de com' colossaux. Nous, les opposants, on n'aura jamais ces moyens-là. Jamais. Donc, je sais pas, mais peut-être que des fois, il y a besoin d'images choc. J'en sais rien, en fait. Hein. Mais je crois que c'est vachement dur parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, donc je crois qu'en réalité, le combat est tellement énorme, tellement immense, qu'à un moment, je crois qu'on a peut-être besoin de tous les outils, parce que de toute façon, on ne va pas viser tout le monde, c'est ce qu'on appelle la segmentation, en fonction de l'argu, en fonction du truc, on ne visera pas les mêmes personnes. Un autre truc aussi, que j'ai rajouté à la dernière minute hier, parce que ça m'est venu en cours de route, un truc qui est vachement insidieux, c'est la censure sociale. Quand on au lycée, en cours de français et en cours de philo, on étudie les auteurs. Enfin, je ne les ai pas tous mis, hein, mais par exemple Voltaire, qu'on étudie en français, Martine, de Massy, etc. Enfin, de Massy n'est pas un auteur, mais il est quand même bien valorisé. Et il y en a plein d'autres. Plutarque et compagnie, c'est marrant. On ne va jamais parler de leurs écrits concernant l'éthique animale. Jamais. Pourtant, alors j'ai mis l'exemple de Voltaire parce que lui, d'abord parce que c'est celui dont je me rappelle le mieux, donc c'est plus facile. Voltaire m'a d'abord, en cours de français, ça me gavait de lire les livres qu'on m'imposait. Les autres, je ne les ai pas trop retenus. Mais Voltaire, je l'ai bien aimé parce que je m'y retrouvais. C'était le livre Candide, donc sur la persécution... pour raisons religieuses, avec la fameuse Inquisition et donc les autodafés où on brûlait vif les hérétiques. Et là, on se dit, mais c'est quand même fou, quoi. Il y a cette censure sociale qui est là. C'est tous les écrits concernant les espèces animales non humaines, on les met pas. Ça dérange, on les met pas. Ça dérange même vachement. Et au contraire, on est obligé de se coltiner des auteurs comme Rabelais avec Pantagruel. Hein? Donc là, c'est des... Hein? Donc là, là encore, c'est très insidieux. Il y a quelqu'un hier qui parlait de l'importance de l'éducation auprès des enfants. Ouais, voilà. Ben là, on est vraiment plein dedans. Hein. Puis là, c'est du rouleau compresseur, hein, parce que c'est au programme scolaire. Quoi. Enfin, c'était à mon époque. Je suppose que ça l'est encore. Mais on est en tous les cas dans du méga rouleau compresseur. Donc en fait, pour conclure sur la vie sociale, voilà, on a parmi les différentes peurs, on a la peur de perdre le confort d'être inséré socialement et aussi inséré dans la cellule familiale. Puis on a aussi peur de se regarder en face. Donc en fait, dans ces trois situations, eh ben, il se peut qu'on ait besoin de passer par des alibis qui sont tout sauf critiques, parce que ça va être plus facile, plus confortable et surtout plus neutre. Ça ne va pas faire intervenir des processus trop émotionnels, donc trop difficiles à mettre en œuvre. Alors maintenant, les conséquences pratiques, est-ce que c'est grave ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire non. Parce qu'en fait, ces personnes-là, quand elles deviennent végées pour ces raisons-là, d'abord, souvent, elles vont elles-mêmes s'ouvrir à l'éthique par la suite. Elles vont accepter de le faire. Mais même si ce n'était pas le cas, elles vont être végées, voire tendance végée, peu importe. Même si on préfère que ce soit des végés complets. Pourquoi je dis tendance végée, peu importe, ça peut choquer. Hein. Mais je dis peu importe parce qu'ils vont, malgré eux, participer à la banalisation du fait de manger végé, c'est-à-dire en public. Ce qui va non seulement aider à avoir des menus végés plus facilement, puisqu'il y aura plus de demandes, mais pour des personnes qui auraient une grosse timidité maladie ou un gros blocage et qui profondément, pour raison éthique, voudraient être végé, mais qu'elles ne se l'autorisent pas, parce que par exemple, elle a une super peur de la rupture sociale, de ne pas être comme les autres, ben là, on va en voir de plus en plus qui sont comme ça, ou qui, même s'ils ne sont pas végés, ils mangent végés régulièrement. Alors là, elle va se dire, oh, ben, ouais, là, je peux y aller. Je peux y aller parce qu'au fond, c'est pas si marginal que ça de manger végé. Donc en fait, même malgré eux, ils vont finalement participer à banaliser l'acte d'aller vers le végétarisme. Et la banalisation, je pense que c'est vachement important dans le cadre de la peur de ne pas être comme les autres. Donc là, en gros, on a fait les trucs psycho, on dirait tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Donc, qui est la recherche du plaisir. Donc, voilà ce que je disais au départ. Hein, donc, l'homme est un animal comme les autres animaux. Et donc, beaucoup d'espèces animales, dont la nôtre, on a un besoin fondamental du plaisir. Et donc, la plupart du temps, nos actes vont être dirigés pour répondre à nos besoins, et donc souvent ça va, le fait de répondre à nos besoins, ça va générer le plaisir d'avoir notre besoin contenté. Donc là j'ai mis trois grosses catégories, mais il y en a peut-être d'autres. Donc le plaisir gustatif et la convivialité, je les ai mis ensemble, mais en fait c'est deux choses distinctes. Difficulté de changer ses habitudes, c'est-à-dire la peur de perdre le plaisir du confort, parce qu'avoir son confort c'est quand même bien plaisant. Et puis la vie sociale. Donc la vie sociale qui n'est pas la même chose que la peur de la rupture sociale. Hein. C'est encore autre chose. Hein. Donc on va commencer par le plaisir gustatif et la convivialité. Donc voilà. Ce que je disais, donc, c'est qu'en fait, bah, l'humain, fondamentalement, la nourriture va faire partie de ses plaisirs qu'il recherche tant. Et c'est tellement vrai qu'un sondage qui avait été publié dans le Quotidien du médecin, en fait, c'était une enquête qui était intéressante pour les médecins, parce que souvent, les médecins, ils ont besoin de faire des régimes à leurs patients. Donc, connaître les motivations pour faire changer l'alimentation aux patients, ça peut être utile pour eux, de savoir quels leviers ils vont utiliser pour que leur patient va mieux accepter le régime, parce que c'est hyper dur de les faire changer d'alimentation quand il y a besoin de faire un régime anti-cholestérol, anti-diabète, etc. Et donc, les résultats, c'est pas folichon. Hein. C'est que vous avez 7 Français sur 10 qui choisissent leur alimentation par rapport au plaisir. Ce qui recoupe avec le document d'hier, où lui parlait du goût. C'est la même chose. Et encore, non. Je dis la même chose, pas tout à fait, parce que dans le plaisir, il va y avoir le goût, puis il va y avoir la convivialité. Parce que le repas, dans notre société, est très souvent lié à la convivialité. Quand on invite quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on l'invite à déjeuner le dimanche midi. Il ne vient pas juste boire un thé, il vient déjeuner. Puis généralement, c'est le roast beef, c'est le dimanche midi, le gigot d'agneau, le roast beef, le barbecue si c'est l'été. Voilà. Donc il y a quand même ça qui est impliqué dedans aussi. La santé, c'est-à-dire que vous avez 20% des personnes qui vont choisir leur alimentation. Je vais manger beaucoup de fruits et légumes parce que c'est bon pour ma santé. Je vais éviter les viandes rouges, je vais plutôt préférer le poulet et le poisson parce que je sais que c'est mieux pour mon cholestérol. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et si on peut inclure les bio d'ailleurs, enfin les bio qui choisissent le bio pour la santé. Parce que vous avez, je pense, la majorité des personnes qui mangent bio, c'est pas pour l'impact environnemental, c'est pour être en meilleure santé. Et puis l'environnement, 10%. C'est pour ça que je vous ai dit au début qu'il n'y avait que 10% des personnes qui choisissaient leur alimentation par rapport à l'éthique. Parce que l'environnement, c'est l'éthique. Hein. C'est préserver la planète, ne pas nuire à la planète et aux écosystèmes. Évidemment, l'éthique animale n'était pas soulevée. Alors moi, je me suis permis de faire une extrapolation juste par rapport au pourcentage, en gros, de... il semblerait qu'on serait dans les 2-3% de VG, tendance VG en France. Seulement, le problème, c'est que là-dedans, vous en avez beaucoup qui se déclarent VG, mais qui ne le sont pas. Donc, par exemple, ils mangent des poissons, mais ils vont se déclarer VG. Donc, c'est quand même très difficile d'avoir une extrapolation exacte. Alors, je crois que j'étais généreuse en mettant 1 à 2%, parce qu'à mon avis, c'est beaucoup moins. Mais bon, j'étais... voilà. Donc, les 1 à 2%, en fait, on pourrait les mettre dans l'environnement. Hein. Ça revient à ça. Donc, quand on sait ça, on a deux possibilités. Soit on n'en tient pas compte, on peut, hein, c'est une possibilité. Et puis, puis on continue. Soit on se dit, peut-être qu'en tenant compte de ça, ça peut peut-être m'aider, quand je suis bloqué avec quelqu'un, à aller voir là-dedans, si par hasard, quand je suis bloqué dans ma discussion éthique, c'est-à-dire qu'il ne veut pas forcément accepter l'éthique, par exemple, là. Est-ce que, par exemple, il n'aurait pas la peur de perdre le plaisir de manger? Ou est-ce qu'il n'aurait pas la peur d'être franchement malade et de mourir? Il y a peut-être des peurs qui ne sont pas formulées quand on est dans la discussion, et si on ne va pas les chercher, on ne peut pas le deviner. Alors malheureusement, c'est que quand on s'adresse à des masses, par exemple par les médias interposés, on ne peut pas aller lever ce qu'on appelle lever les lièvres. Je suis désolée, c'est pas une... C'est pas une expression pas végane. Je sais pas comment dire, moi, faire lever les truffes par le chien, je sais pas comment on peut dire. Mais le but du jeu, c'est d'aller débusquer le non-dit. Parce qu'on va pas pouvoir répondre à ce non-dit si on va pas le débusquer. Donc il faut aller lever ce problème-là, il faut aller le soulever, ce problème. Mais dans les médias, on peut pas. Donc dans les médias, ça peut être peut-être intéressant de garder ce pourcentage à l'esprit et de se dire... quand je parle d'un sujet précis, je vais quand même parler du plaisir et de la santé, histoire de rassurer qu'ils ne vont pas mourir. Voilà. C'est juste garder ça à l'esprit de, par exemple, un truc tout con, j'avais fait une action pour la journée mondiale du climat. Donc évidemment, l'argue, elle n'était que orientée viande et climat. Hein, je n'avais pas parlé d'éthique sur la journée mondiale du climat. Et par contre, dans les interviews, je prenais toujours compte de ça et de ça. C'est-à-dire que, histoire de rassurer les personnes qui vont écouter, que c'est quand même vachement bon de manger alternatif et qu'ils ne vont pas mourir. J'ai utilisé le mot alternatif parce que pour une partie importante du public, le mot végétarien fait franchement peur. On l'a vu hein, par rapport à toutes les peurs que ça véhicule, mais surtout, en plus, c'est idiot, mais dans le mot végétarien, il n'y a rien. Et globalement, c'est l'idée, mais ça va être la même chose pour vegan, hein, même si sémantiquement, on ne le retrouve pas. Vegan, on ne peut pas dire vegan, parce qu'en fait, le public ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas trop le problème. On va dire végétalien. Le problème, c'est qu'on le verra plus tard. En gros, c'est ce que pense le public, hein, c'est qu'on mange rien. Hein. Donc, c'est pas cool, quoi. Et alors, pour couronner le tout, on va se retaper en plus de ça, en plus de Pantagruel à l'école, en plus des documentaires de prédateurs, de machins, de bidules, on va se retaper l'industrie agroalimentaire, un charal, entre autres, mais pas que. Ce charal, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce qu'en réalité, ils ont suffisamment de fric pour se payer des faux experts qui vont siéger dans des commissions, qui vont dire, c'est par exemple le PNNS, Programme National Nutrition Santé, ah ben, il faut manger tant de viande et poisson par jour, tant de produits laitiers, etc. Donc ça fait partie du marketing. C'est que ces personnes-là, elles ont un pouvoir immense. Elles ont aussi suffisamment d'argent pour payer des lobbyistes, dont M. Coste, que les chasseurs, enfin les anti-chasses et les anti-corrida connaissent bien. Mais en fait, ils bossent, il y a une coalition, je ne sais pas si ça s'appelle, il y a Noé dedans, mais je sais pas. Comité Noé, voilà. En fait, c'est tous les exploiteurs d'animaux qui se sont réunis. D'ailleurs, je dirais en ça qu'ils sont peut-être plus intelligents que les différents mouvements animalistes qui, eux, vont chacun dans leur coin. Donc évidemment, on disperse les moyens. Là, ça n'empêche pas qu'ils ont chacun leur combat, mais n'empêche qu'ils se sont réunis pour faire cette coalition, le comité Noé. Et du coup, c'est M. Coste qui fait le boulot pour eux. Donc lui, on va le retrouver dans les couloirs de l'Assemblée nationale, des choses comme ça. Puis alors, attendez, il déjeune, il va en week-end, il y a des week-ends chasse en Sologne, il y a machin, il y a ce qui est fait classiquement pour tous les grands chefs d'entreprise. Ça fait partie du public relation, avec mon bel accent. Mais nous, vous imaginez Ah, monsieur le député, je vous emmène au restaurant VG. Ah, écoutez, ce sera avec plaisir, mais je peux pas. J'ai un rendez-vous. Je suis déjà invité à déjeuner. Donc voilà, le combat est quand même hyper inégal. En plus, non seulement c'est des repas, mais c'est des repas hyper gastronomiques. Hein. Donc, c'est ce que j'appelle les méthodes de l'industrie agroalimentaire avec sa partie visible, les slogans publicitaires qu'on se prend à la télé, à la radio, la Saint-Martin, c'est la fête du foie gras, je ne sais plus comment ils disaient. Hein. Voilà, d'ailleurs, soit dit en passant, ils sont quand même tellement forts qu'ils ont réussi à faire croire aux Bretons que manger du foie gras à Noël, c'était la tradition. Je parle de la Bretagne, je me retonne, mais c'est partout pour le reste de la France. Ils ont quand même réussi à faire croire ça en quelques années seulement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils véhiculent? Ils vont véhiculer que les produits animaux, c'est en fait super bon. Et ça, on l'a très bien retrouvé dans le documentaire, dans la conférence hier soir. Hein. Vous savez, avant de montrer les produits VG, ce qu'ils faisaient, là, ils mettaient toutes les images. Ah, même tout le monde n'a pas vu le film hier soir. Mais ils montraient justement la glace, le machin, le bidule, avec toutes les publicités, comme quoi c'est super bon. Mais c'est ça, on baigne là-dedans. Alors, vous, avec vos petits moyens, il va falloir faire accepter à l'autre que le plaisir, c'est pas forcément que la viande, le fromage, etc. Donc, là, je me suis mise à la place du non-VG. Du non-VG qui fait partie des 70% de Français, c'est-à-dire qui choisissent leur alimentation par rapport au plaisir, ou je dirais aussi le non déplaisir, parce que changer ses habitudes, c'est du déplaisir. Alors voilà, vous êtes VG, vous faites partie des 70% dans le plaisir. Alors, les idées reçues. VG, oh là là, je vais avoir faim, c'est pas rassasiant. C'est tellement vrai qu'une fois, on avait invité un couple à la maison, chasseur, mais on avait besoin d'eux, surtout on a pas mal d'animaux, et bien que ce soit très difficile psychologiquement, le but du jeu, c'était, quand on est arrivé dans la région, de non pas de faire ami-ami, mais d'éviter de se les foutre à dos. Parce qu'ils tuent les chats, ils tuent. Nous, on a deux chevaux à la retraite, donc ils ont reçu. Enfin voilà, il y a un moment, on est quand même en brière. Donc, on a fait du public relation. Et c'était eux qui nous livraient le foin, donc. Ils sont venus à la maison. Et puis, moi, dans ces cas-là, quand on soit des non-végés, je fais les petits plats dans les langues. histoire de casser les idées reçues, que ce n'est pas des crudités, de la salade verte, mais encore. Puis j'étais étonnée parce que madame calait assez vite. Et en fait, ils étaient venus avec leur gamin, enfin un de leurs gamins. Puis il y a le gamin qui a fait une gaffe. D'ailleurs, j'aurais pas voulu être à la place des parents. Parce qu'en fait, ben, ils avaient mangé avant de venir. Eh bien oui, mais pourquoi? Parce que quelle est l'idée reçue du végétarien? C'est qu'il mange rien. Sauf de la salade verte et des haricots verts. Moralité, c'est pas ça qui va rassasier. Donc ils avaient mangé. Bon, mais ils trouvaient ça très bon ce que j'ai fait, sauf qu'ils n'ont pas pu manger les quantités. Mais n'empêche que si le gamin n'avait pas vendu la mèche, ben, j'aurais jamais su. Et je ne serais pas étonnée qu'en fait, ça nous est arrivé sans qu'on le sache, en réalité. Ensuite, voilà, la deuxième... Donc j'ai mis en gros frustration, parce que si vous ne mangez pas à votre faim, vous êtes frustré quand même. C'est pas rigolo. Donc, deuxième idée reçue, salade verte, haricots verts, bon, en gros du régime, quoi. Alors si vous faites partie des 70% de votre plaisir, et que ce qui est véhiculé par le végétarisme, l'isme, tout ce que vous voulez, c'est un régime, tu repasseras, quoi. Troisième point, pas de convivialité, puisque là, on est vraiment dans le cliché barbecue, les amis, la famille, le repas de Noël, convivialité, les huîtres, le foie gras, la dingue, la pintade, je sais plus quoi, moi. Et du poisson en dessert, on va dire comme ça. Enfin, en gros, c'est ça. La crème glacée, enfin, bon, enfin non, mais, en gros, c'est ça. Donc, là, de façon inconsciente, il va se dire, végé, attends, je ne peux plus partager mes repas avec les autres, donc plus de convivialité. Ensuite, vous avez un autre cliché, c'est compliqué. Et de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, c'est compliqué. Parce que toutes les habitudes qu'on va changer dans notre vie, y compris de changer d'aspirateur, bah, au début, c'est compliqué. Parce que faut retrouver le mode d'emploi. Encore, généralement, l'aspirateur, c'est un mauvais exemple, parce qu'en général, c'est quand même facile, il n'y a pas 50 boutons. On va prendre, je ne sais pas, moi, c'est des heures, magnétoscope, j'en sais rien, vous savez, vous avez plein de boutons, là. Bah, c'est quand même, au début, vachement dur. Parce qu'il faut s'approprier la machine, le truc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste avec la vieille télé, ou machin. Et puis, troisième cliché qui est véhiculé, c'est que les végés, ce sont des gens tristes. Et ça aussi, ça fait partie des gros clichés. Quand on fait partie des 70% des gens qui mangent pour le plaisir, quand on est dans une société dure, parce que la vie professionnelle, elle est quand même vachement dure, souvent, très souvent. De par les conditions de travail, de par l'ambiance. Même la vie à l'usine, avant, la vie à l'usine, vous aviez une grande solidarité entre les ouvriers. Donc même si le boulot était dur et rébarbatif, eh ben, il y avait une solidarité qui fait qu'on se marrait quand même à l'usine. Donc voilà, c'était souvent des amis d'ailleurs. Mais à l'heure actuelle, il y a de moins en moins ça, parce que souvent les patrons, ils choisissent de diviser pour mieux régner. Pour éviter la solidarité, justement, c'est les méthodes de management, c'est foutre les uns contre les autres, comme ça, quand ils sont injustes envers un, ils savent que les autres ne vont pas faire front pour l'aider. Et ça leur permet, du coup, d'imposer toutes les conditions de travail. Donc, quand on est au boulot, qu'on a déjà ça à supporter, que vous rentrez le soir ou le week-end, alors, est-ce que vous avez forcément envie d'aller dans la frustration? Pas sûr. Généralement, on a plutôt envie de se faire plaisir, histoire de... C'est bon, j'en ai pris plein la gueule au boulot, je passe à autre chose. Voilà, il y a quand même tous ces freins-là qui vont entrer en ligne de compte. Hein. Donc, ça peut peut-être être intéressant, finalement, d'aller communiquer sur... au niveau de la peur de... On mange pas assez, non. Manger végé, c'est pas que des haricots verts, de la salade verte, donc c'est rassasiant. Que c'est pas triste, qu'on mange pas que de la salade verte et des haricots verts, qu'on peut également se régaler, que c'est convivial, qu'on peut faire des repas, y compris de famille. Moi, j'ai fait mon mariage il y a 12 ans, c'était un mariage végé. Que la cuisine, c'est compliqué, ben là, il va falloir quand même rassurer aussi, hein, même si c'est vrai. De toutes les façons, tout ça, dans tout ça, il y a quand même un peu du vrai pour des personnes. Voilà, il y a des personnes pour qui ça sera vrai, de toute façon. Hein. Donc, ben, il va quand même falloir, nous, à un moment, peut-être, qu'on utilise les méthodes des promoteurs de la viande et des produits animaux, c'est-à-dire faire du marketing. Alors, je sais bien que c'est un gros mot, mais en même temps, bah, le fonctionnement intellectuel est tel que bah, ça peut aider quand même. Et donc, du coup, d'aller communiquer en disant que la cuisine, bon, oui, ça peut être un petit peu difficile, comme tout changement d'habitude, mais en réalité, ce n'est pas difficile. Et d'ailleurs, ce n'est pas faux. Parce qu'une fois que vous avez passé le premier cap, bah, vous trouvez ça pas plus difficile que le reste. Par contre, la première période, ça a été très ardu. Que voilà, communiquer sur le fait que les VG ne sont pas des gens tristes, ça peut être bien aussi. Là, j'ai une anecdote, j'ai un copain médecin, en fait, qui est le copain de ma soeur, et je le revois, et puis il me dit, au fait, tu es toujours végétarienne ? C'était ma soeur qui lui avait dit. Et puis, je lui dis, bah oui. Et je lui avais jamais parlé d'animaux, hein, parce que c'est surtout un copain de ma soeur. Et je savais qu'elle non plus ne l'avait pas fait. Puis il me dit, comme ça, de rien. Il dit, ouais, parce que, moi, en fait, hein, je n'ai pas envie de manger des petites bêtes. Hein. Mais alors, les VG que je connais... Et, je vous jure, on a fait cette tête. Hein. C'est les gens tristes. Puis alors, et puis il faut faire ci, et puis il faut manger ça, et puis il faut manger de bio, etc. En gros, c'était des gens tristes et donneurs de leçons. Et donc, rien que ça, il voulait pas. C'est un mec qui adore faire la fête. C'est un mec qui est un fêtard. Et bien, rien que pour ça, il n'a pas voulu aller là-dedans. Alors là-dessus, je lui ai dit, ah, mais tu sais, il existe un site internet, nanana, tu vas voir, c'est festif. Il y a une super recette gastronomique et tout. Parce qu'en plus, c'est un fêtard, mais il adore la bonne bouffe. Un gastronome, comme on dit. Et puis je lui dis, tu sais, le mec qui fait le site, putain, c'est un fêtard et tout. Et c'était vrai, en plus, je savais ce que je connaissais le mec. Je lui dis, c'est vraiment un fêtard, grivois. Et lui, il est grivois. Je ne suis pas gênée pour le dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, à un moment, il a pu s'identifier. Et il a, je ne dis pas qu'il va devenir végé. Je ne dis pas du tout ça. En tous les cas, je pense que j'ai levé un frein qui était que, ah bon, il était, ah ben, donne-moi ton site et tout. Et je pense que oui, en tous les cas, il aura certainement diminué sa conso. Passer à l'aide, ça c'est autre chose, parce que s'il y a des choses plus profondes, puis moi je peux pas dans ma position, je ne peux pas dans ma position aller, c'est un client à ma sœur, donc je peux pas aller trop loin dans la rue. Hein. Ouais, il y a des gens avec qui on peut pas. Hein. Mais j'ai trouvé ça quand même très révélateur dans ce qu'on peut véhiculer. Donc, la conclusion du plaisir gustatif et de la convivialité, c'est que vous avez une balance. Tiens, c'est marrant, il est très clair, mais en fait, vous avez une balance comme ça, là, qui penche à droite. Puisque 70% des Français choisissent leur alimentation en fonction du plaisir procuré, et à gauche, à peu près 10% vont la choisir pour l'éthique. Donc, ce qui va peser à droite, qui va aller contre nous, bah, il va y avoir l'image de l'alimentation végé, c'est-à-dire les frustrations. Toutes les frustrations là, que j'ai passées en revue, je crois qu'il y en avait 6. Il y a un autre truc, c'est qu'en fait, 80% des personnes, quand elles achètent quelque chose, 80% de l'acte d'achat, c'est le conditionnement. Donc, c'est extrêmement subjectif. Donc le packaging, comme on dit, c'est hyper important. Et c'est même tellement important, à la fois le packaging et le marketing qu'on met avec, qu'entre un très bon produit qui va avoir un packaging moche et pas de marketing, et un produit pour faire la même chose, hein, tiens, on va prendre l'exemple d'un aspirateur, un super aspirateur qui marche du feu de Dieu, c'est mon mari qui le passe à la maison, mais vraiment le top aspirateur... Mais alors, il est moche. Pourtant, il est léger, il est moche. Il est moche et puis il n'y a aucune publicité de fait. Et de l'autre côté, un aspirateur nul à chier, qui est lourd, qui aspire rien du tout. Par contre, il est joli. Et en plus de ça, il y a plein de campagnes publicitées à la télé qui vendent ses mérites. Et vous êtes au magasin, vous faites quoi? Bah, il y a des chances qu'on ne prend pas le bon. Voilà. Parce que en tous les cas, 80% des Français, ils vont prendre celui qui semble joli celui, vous savez, vu à la télé, machin. Voilà. C'est insidieux, tout ça, c'est très insidieux, mais faire l'acte d'aller voir, mais au fond, lequel des deux aspirateurs est le plus performant, bah, ça nécessite un effort que tout le monde ne va pas être prêt à faire. Et puis, alors, il y a encore un autre truc concernant la gastronomie. C'est qu'en plus de ça, la gastronomie en France, c'est quasiment un sport national. J'ai compté une fois dans une maison de la presse, il y avait une trentaine de revues de gastronomie. Quand j'ai vu ça, je dis, c'est dingue. 30 revues de gastronomie. Les émissions de télé, on ne les compte plus. Et les émissions de radio, pareil. Enfin, ça aussi, c'est du bourrage de crâne, parce que c'est quasiment jamais des repas végés. Donc, mine de rien, c'est un sacré bourrage de crâne. Donc, en conclusion du plaisir gustatif et de la convivialité, ben, voilà, moi, je me dis que peut-être, ça pourrait peut-être être utile d'aller communiquer aussi sur la gastronomie pour lutter contre les idées reçues. Alors, moi, j'ai utilisé le mot de sous-nourriture. C'est peut-être choquant, mais je pense qu'un certain nombre de personnes le perçoivent comme ça. Et, pardon. Et donc, voilà, histoire d'aller agir sur cette peur que, non, mais en fait, vous pourrez satisfaire votre besoin de plaisir. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je comprends votre peur, mais soyez rassurés. Je vous assure, vous allez vous amuser quand même. Et on peut même aller jusqu'à parler, quand la personne est très réceptive, hein, quand vous sentez que le dialogue est là, qu'il s'instaure bien, on peut même aller en parlant d'un plaisir que nous, on a à chaque repas. C'est le plaisir de manger à sa faim, de se régaler. Mais surtout, c'est qu'à chaque repas, on est super content parce qu'on fait tout ça avec, je sais pas, là après, c'est à chacun de trouver le mot, mais le plaisir de laisser vivre, de ne pas nuire. Mais j'aime pas ne pas nuire parce que c'est un truc négatif. En fait, il faut trouver des formulations qui soient positives. Ça, c'est pas facile à toujours trouver, mais en gros, ce serait ça l'idée à faire passer. C'est que, oui, c'est vrai, vous allez perdre des choses. C'est vrai. Hein? On va perdre la viande, on va perdre le poisson, on va perdre... Mais, vous allez gagner d'autres goûts super bons. Vous allez gagner ceci, vous allez gagner ça. Et vous allez gagner grosse cerise sur le gâteau. Vous allez voir, c'est un truc tellement intense que souvent, on regrette de ne pas avoir franchi le pas plus tôt. Ouais, mais j'aime pas. J'aime pas cruauté parce qu'on est dans du jugement de valeur. Voilà, par exemple. Parce que le jugement de valeur, d'abord, c'est contre-productif parce que ce qui est cruel pour toi ne va pas forcément l'être pour l'autre. Alors, si tu vas dire à quelqu'un, par exemple, moi j'ai fait des actions foie gras dans la rue à Noël. Je faisais toujours très attention avec les gens de ne jamais utiliser le mot cruauté. Je ne faisais que décrire la réalité. Et bien, de toute façon, ça suffisait à soi. Et je pense que dire que c'était cruel, je pense que c'était contre-productif parce que du coup, on est déjà directif de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Ouais, mais même pas. Parce que de toute façon, je faisais juste mon argument. En fait, c'est simple. Hein, je leur disais, imaginez, pendant 13 jours, pendant 11 à 13 jours, vous êtes attaché sur une chaise ou sur un lit, mais de toutes les façons, vous n'allez plus bouger pendant cette période-là. Et je leur disais, mais rien que ça en soi, même s'il n'y avait pas le gavage, c'est déjà en soi insupportable. Vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas bouger le bras. Et en plus, on vous met un tube, machin. Et t'as même pas besoin d'aller plus loin, en fait. Et rares étaient les gens qui nous disaient que le foie gras, enfin, qui justifiaient le foie gras, en fait. Alors, en fait, si on résume par rapport aux habitudes, parce que ça, en fait, c'est un très gros poids, un truc énorme, en fait, aussi. C'est qu'on a tous une grosse difficulté à changer nos habitudes, dans tous les domaines. Genre, vous êtes habitué à un itinéraire de route, puis quelqu'un vous dit « Ah ouais, tu passes par là et tout, mais attends, t'as un raccourci, tu as gagné du temps et tout. » Ben, on ne va pas forcément tous prendre le raccourci tout de suite. Il y en a, oui, Puis il y en a, non, qui auront besoin de temps avant d'aller essayer le raccourci. Parce qu'on sait très bien qu'une route qu'on ne connaît pas, eh ben, on risque de se perdre, on risque de perdre du temps. Et alors que la route qu'on connaît par cœur, ben, de toutes les façons, on peut y aller comme ça. Et en gros, vous avez trois catégories de personnes. Alors, ça, c'est pareil, c'est la segmentation marketing. Je suis désolée du terme. Mais vous avez ce qu'on appelle les modernistes, les conformistes et les traditionnalistes. Et on est tous, on rentre tous dans une de ces trois catégories. Les conformistes, en fait, c'est la plus grande proportion, mais je n'ai pas les proportions en tête, mais c'est les majoritaires. Les modernistes, c'est une des deux minorités, et les traditionalistes, c'est l'autre des deux minorités. Donc, dans le cas d'un lancement de produit, durée de vie 10 ans du produit. Un lancement, ça va durer 1 à 2 ans, parce que c'est un produit qui est voué à durer 10 ans. Après, c'est d'autres produits qui remplacent. Donc, on va faire un lancement pendant 1 à 2 ans. En fait, comme on ne peut pas voir tous les clients, qui est-ce qu'on va voir ? Les modernistes. Parce qu'on sait qu'eux, ils ont beaucoup plus de facilité à essayer du nouveau. Les conformistes, ben, ils auront les peurs. Peur, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un très grand écran plat, que j'ai toujours pas du reste, toujours le vieux clou, bon machin, mais imaginez les grands... Vous savez, quand les écrans plats sont sortis, ça fait déjà quelques années. Ben en fait, les écrans plats sortent, vous allez avoir des gens qui vont tout de suite les acheter. Vous en avez d'autres qui vont se dire « jamais de la vie, j'en achèterai jamais », ça c'est les traditionalistes. Et puis vous avez les autres, ça leur donne envie, parce que ça a l'air bien, mais ouais, mais est-ce que ça ne va pas tomber en panne puis c'est quand même vachement cher, je vais quand même attendre que les prix baissent. Est-ce que, bon, en gros c'est « j'attends de voir ». J'attends de voir quoi ? Les retours des autres. J'attends de voir si les autres survivent à leur écran plat, s'ils sont contents, leur écran plat. Voilà. Et là, à ce moment-là, quelques années après, je vais acheter mon écran plat. Et en gros, c'est ça pour tous les actes de... ce que j'appelle les actes d'achat, mais le végétarisme, c'est un acte d'achat. On achète ou pas le végétarisme. Hein. Si on caricature, c'est ça. Hein. Nous, ce qu'on fait, c'est chercher à vendre le végétarisme. Et après, l'autre, il va acheter ou pas. Et sachant que vous avez les conformistes, les modernistes et les traditionalistes, nous, le végétarisme, on ne peut pas dire que ce soit encore très, développé. Alors, c'est peut-être pas la peine d'aller voir les traditionalistes, je pense que c'est là. Les conformistes, j'attends, c'est peut-être pas les... Non, en fait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... les conformistes, quand on travaille dans les médias, on va forcément les viser aussi. Hein. Mais sur les stands, les modernistes, en fait, c'est les plus faciles pour nous. C'est les plus faciles parce que... Et nous, on fait partie des modernistes. Forcément, ouais. Attends, j'ai pas entendu, vous inquiétez pas.
Il y a des célébrités régées.
Oui.
Donc s'il y a des célébrités, c'est quand même vu à la télé.
Ben c'est, sur les stands, moi j'ai toujours un grand panneau avec les célébrités. En fait, j'en parle pas, mais elles sont très visibles. Et c'est une façon insidieuse de dire, c'est pas marginal. Alors je sais qu'il y a des VG qui trouvent... Je me suis déjà pris des militants VG, ah, c'est inadmissible, c'est pas parce qu'une célébrité est VG que c'est, ça n'a pas de rapport avec le choix individuel. Ben, tant pis, je m'en prends plein la figure, mais c'est un panneau qui marche très bien. En fait, c'est le panneau, je crois, le plus regardé. Et pourquoi ? Bah parce que ça participe à banaliser le végétarisme. Et je pense qu'on a un besoin de ça. Donc, ça participe à ça. Mais ça va être plus du subliminal, en fait. Par contre, pareil, hein, dans les interviews médias, j'avais fait une action pour Noël dans un magasin bio, et l'objectif, c'était surtout les médias. Donc l'intérêt, c'était de faire une action au chaud, et puis ils me fournissaient les produits, c'était des dégustations. Et puis le thème, c'était un truc dans le genre faire la fête à Noël en paix. Mais ce n'était pas tout à fait ce titre-là, mais c'était l'esprit. Ou, comme quoi, Noël, ça pouvait être Noël pour tout le monde. Et donc, évidemment, c'était axé plaisir, 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 forcément, parce qu'il fallait lutter contre l'idée reçue que seuls les repas, faudra machin... répondait au plaisir, mais je mettais quand même quelques célébrités que je retenais toujours que je citais, et comme par hasard, les journalistes reprennent les célébrités. Donc ça, c'est évidemment des choses qui savent que ça va marquer. Donc voilà, dans la difficulté de changer ses habitudes, on va retrouver trois catégories. D'abord, ça on l'a vu à l'école, dans l'industrie, les messages télé, etc., etc., les documentaires, etc., ben, on n'arrête pas de nous dire « on mange de la viande depuis la nuit des... Enfin, » même si c'est pas vrai, mais on nous le dit. Et donc, il y a ça. Ça va être très utile pour les personnes qui sont déjà conscientes du problème éthique, mais qui vont chercher une excuse. Donc là, elles vont se cacher derrière ça. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que les hommes préhistoriques, ils n'avaient pas de chauffage, ils n'avaient pas d'électricité, ils n'avaient pas de voiture. Ben alors, c'est bizarre, ça pose de problème à personne. Quand même. Donc, c'est bien la preuve que ce n'est qu'une fausse barbe et que c'est bien pratique quand on veut trouver une excuse pour continuer quelque chose qu'on n'a pas envie d'arrêter. Donc, en fait, voilà, c'est... Pour moi, c'est juste une justification, un prétexte qui peut servir aux VG refoulés, ce que j'appelle les VG refoulés, qui ont donc besoin de prétexte pour continuer le crime. Alors ensuite, dans les habitudes, c'est les vraies habitudes. Parce qu'en fait, l'histoire de la nuit des temps, ce n'est pas des vraies habitudes, hein, c'est juste une fausse barbe. Par contre, la difficulté de changer ses habitudes, c'est que tout le monde, y compris nous, quand on doit changer une habitude, c'est toujours très difficile. Toujours. C'est pour ça qu'il va toujours se passer un laps de temps, entre le moment où on commence à se dire « Ah, bah, tiens, ce serait bien que je fasse autrement dans telle situation. » Et le moment où finalement on va se décider. Et ça peut être très long. Bon, une fois, avec mon mari, ça nous a pris 3 ans pour faire l'effort, 3 ans pour nous inscrire à la banque La Nef. Parce qu'on la considère, la NEF, c'est une banque solidaire, parce qu'on considérait cette banque moins pire que les autres banques. Ben, il nous a fallu 3 ans pour faire l'effort, parce que la banque, il n'y en avait pas chez nous, il fallait aller jusqu'à Nantes, donc 3/4 d'heure de route. Et ce faisant, on avait honte. Pendant ces 3 années, on avait honte, puis on disait, faudra le faire, mais en fait, on avait honte, on ne le faisait pas. Puis un beau jour, en fait, j'ai ouvert un compte bien avant... à mes neveux et nièces, ils ont eu le temps, j'ai eu le temps d'avoir 3 neveux et nièces à la queue leu-leu de ma sœur, parce qu'à chaque fois je leur ouvrais un compte et je mettais des sous dessus. Voilà, parce que ça, pourquoi ? Parce que on n'avait pas à faire la démarche. On avait les dossiers et c'était à eux de se débrouiller. Donc je mettais les dossiers, le chèque et voilà. J'avais pas plus d'efforts que ça à fournir. Et finalement, au bout de 3 ans, on avait vraiment trop honte. Donc là, on est allé. Et le mec de la banque nous a dit « Ah non, mais attendez, c'est la moyenne. En général, les gens, avant de prendre le compte, ça fait 3 ans qu'ils y pensent. » Ah, ça nous a fait du bien. Ça nous a déculpabilisé. Donc, voilà. Donc, c'est important aussi de déculpabiliser les personnes qui, oui, vous le savez, auraient envie d'être VG, mais il leur faut juste du temps. Et c'est juste, même si c'est hyper énervant pour nous, c'est juste l'accepter, parce que de toute façon, nous énerver, ça ne changera rien, si ce n'est les braquer. En revanche, respecter ce besoin, c'est aussi les aider. Sachant que nous, on n'est pas parfait, et que même si, mettons dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'autant de temps, il y a eu sûrement d'autres situations où il nous a fallu du temps pour changer notre comportement. Alors, en plus, il y a un autre truc qui va rentrer en ligne de compte, c'est que plus un changement est perçu comme important, plus il va y avoir d'efforts à fournir, et donc, plus on court le risque que rien ne soit fait. Et ça, c'est malheureusement là. Hein. C'est pour ça que des personnes, par exemple, ultra gourmandes, qui adorent la viande, le poisson, le fromage, le fromage notamment, hein, qui est bien, bien implanté culturellement, même si des fois c'est difficile pour nous, pour certaines personnes, ça peut être plus facile pour elles de commencer par éliminer peut-être la viande, parce qu'elles vont avoir plus facilement le dégoût de la viande, donc c'est peut-être plus facile. Ensuite, moi je mets en général le poisson en même temps, parce que je leur fais peur au niveau santé. Je leur dis que c'est encore plus pollué que la viande, donc voilà. Mais il y a certaines personnes, leur demander tout de suite de supprimer le fromage, et les produits laitiers, c'est-à-dire les desserts, parce que imaginez déjà l'énergie que ça demande de changer ne serait-ce que le plat principal et l'entrée. C'est déjà énorme. Alors, ils pourront se consoler avec le dessert. Surtout que le yaourt, c'est pratique. Il y a juste à sortir le yaourt. Ou le fromage, pareil. Donc, dans certains cas, ça dépend de qui j'ai en face de moi. Si je sens que c'est quelqu'un qui a vachement du mal à changer ses habitudes, eh ben, je vais peut-être aller un peu plus par étapes. Parce que le risque, c'est que si c'est perçu comme trop dur à faire, du coup, il ne va rien faire du tout. Il ne va carrément rien faire. Et ça, c'est... voilà, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Hein, quelque chose, un effort qui nous paraît surhumain, même si on sait que ce serait bien de le faire. Pff, ouais, bah, je sais bien, il faudrait le faire, mais je m'en fous. Donc, en fonction des personnes, ça peut être intéressant de prendre ça en compte. Je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. En fait, ce qui se passe, c'est que la personne, elle va chercher à se maintenir en zone de confort. C'est ce que nous, on fait tous dans toutes les situations. Si on est en conflit avec quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, on risque de chercher notre zone de confort. Parce que le conflit, on n'aime pas. Donc, d'une façon ou d'une autre, on va chercher une stratégie, soit pour arrêter le conflit, soit pour voler dans les plumes, soit se barrer. Mais de toute façon, on va chercher à se maintenir dans cette zone de confort. Et c'est pareil pour tout. Donc la personne, voilà, va chercher à se maintenir dans cette zone de confort, en l'occurrence, ne pas changer, puisque le gros problème là, c'est juste changer les habitudes. Donc ne pas changer, ben, c'est confortable. Alors par contre, un effort qui va être perçu comme raisonnable, là, c'est plus facilement envisageable. Malgré tout, il faut souvent l'accompagner. C'est pour ça que c'est intéressant d'organiser des ateliers cuisine, des rencontres conviviales, parce que là, on va accompagner les personnes, ils ne vont pas être tout seuls, en fait. Et donc, on a plus de chances qu'ils ne vont pas arrêter, parce que sinon, ils peuvent se décourager s'ils ne connaissent aucun BG. Puis dire à un moment, c'est trop dur. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui pourraient nous sembler secondaires, mais elles ne le sont pas. L'accompagnement, les ateliers cuisine, etc., des recettes de cuisine, ça peut être très important. Voilà, tout ça, ça va être, la vocation de ça, ça va être modifier la perception de difficulté à changer. Et le but du jeu, c'est que on puisse transformer une difficulté a priori insurmontable en une difficulté gérable. Et donc, si à un moment, la personne, elle a bien fait le pour et le contre, que la balance, elle a penché du bon côté, elle va le faire. Le dernier point de frein, c'est la vie sociale. Donc là, c'est très rapide, hein, parce que c'est facile à comprendre. C'est, là aussi, on a un besoin fondamental d'insertion dans la société, parce qu'on est un animal... on n'est pas un animal solitaire, quoi. On est un animal qui vit en groupe. Ça peut être en tribu, ça peut être en famille élargie, ça peut être... Mais de toute façon, on a besoin de l'autre. Donc... percevoir qu'être trop différent de l'autre, on peut peut-être se couper de ça, ça peut poser problème. Donc en fait, c'est là aussi être conscient que la perte du partage des valeurs avec d'autres, ça peut poser problème à certains. Donc là, ben quoi, ça va être communiqué sur la vie sociale, j'en ai déjà parlé, hein, la vie sociale préservée, on peut être végé et continuer de faire comme tout le monde. Ah non, j'avais oublié la santé, mais c'est rapide. Ça, c'est tellement... Je pense qu'on l'a... Là, on l'a tous, celui-là. C'est que ça nous est tous arrivé de tomber sur des personnes convaincues qu'elles vont mourir si elles ne vont pas... dont certaines, très sincères dans l'éthique animale, elles seraient prêtes à le faire. Hein. Mais elles ont une telle peur de tomber malade qu'elles ne vont pas le faire. Donc là aussi, il y a toujours le poids d'une industrie agroalimentaire qui est là. Donc là... On va avoir le manque de protéines, les carences, la fatigue. Je vais être fatigué. D'ailleurs, la fatigue, souvent, vous voyez des personnes qui vous disent « Ah ouais, qu'est-ce que je suis fatigué depuis que je mange végé. » L'air de dire « Je crois que je ne vais pas y rester. Hein. » Et là, moi, je leur réponds « Ah ben, moi aussi, hein, je suis fatigué. » Par contre, j'ai un train de vie tellement fatigant que quand je suis fatiguée, je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer ma fatigue ? Alors, pratiquement toujours, j'ai la réponse. En fait, je dors 3-4 heures ou je fais trop de choses dans la journée. Voilà. Et en fait, en faisant ça, c'est juste lui dire « Oh, te sers pas de cette excuse là, parce que tout le monde est fatigué. » On a un train de vie qui, de toute façon, fait que la fatigue, c'est la première plainte chez le médecin. Donc, tout le monde est fatigué. Surtout les femmes, souvent, qu'on le veuille ou pas, ben, elles ont la vie professionnelle, les enfants, le ménage, ça fait beaucoup de choses. Donc, du coup, c'est juste les rassurer que leur fatigue, elle n'est pas liée à l'alimentation. Il y a sûrement quelque chose dans leur mode de vie qui explique qu'elles soient fatiguées. Après, ponctuellement, ça peut être lié à l'alimentation, si elles ne mangent pas suffisamment équilibré. Donc, voilà, mais là, ça vient dans la discussion. Mais la plupart du temps, c'est pas l'alimentation. Et donc, un autre truc aussi, c'est que si les personnes sont intimement convaincues que la viande est indispensable pour la santé, implicitement, ça veut dire qu'on est donc des carnivores. Et donc, là aussi, ça peut être une justification pour rien changer. Donc, aller communiquer sur la santé, c'est-à-dire, non seulement on a une aussi bonne santé, mais surtout, on a une meilleure santé globale. Donc, quand on dit ça, on véhicule le fait que ben, on n'est peut-être pas finalement fait pour être carnivore. En tous les cas, même si c'était le cas, c'est pas l'idéal pour la santé humaine. Et que, ben, en fait, on est peut-être plutôt fait pour vivre 100-120 ans. En gros, on vit 80 balais, parce que ben, comme on mange, comme les Français, ben, on est adaptivore, donc on mange ce qu'on mange, mais ben, y a un prix à payer qui est l'espérance de vie. Et quand on dit ça, généralement, ça les interpelle, parce que là aussi, hein, l'industrie agroalimentaire passe son temps à faire passer le message que si on vit aussi longtemps, parce qu'on mange de la viande, des produits laitiers, tralala, tralala. Et en fait, juste leur dire qu'en fait, bah, on ne vit pas le temps qu'on devrait. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait vu que 20% des Français choisissent l'alimentation par rapport à leur santé. Bah, ne pas parler de la santé, c'est se couper de 20% des Français, donc c'est quand même 1 sur 5. Et puis là encore, comme tout à l'heure pour l'environnement, plus il y aura de VG ou de tendances VG, y compris ceux qui viennent que pour être en meilleure santé, plus ils vont contribuer par eux-mêmes à banaliser le végétarisme, et du coup, bah, c'est plus facile pour amener l'éthique animale. Et donc là, si on résume tous les freins, qui sont des peurs, la remise en question personnelle, le conflit de loyauté envers les parents, les peurs d'exclusion, le plaisir gustatif et aussi la convivialité, la difficulté de changer les habitudes, la vie sociale, et puis les idées reçues concernant la santé. En fait, toute personne qui se pose la question de devenir ou pas végé, il va mettre tout ça dans la balance. Donc d'un côté, il va mettre ce qu'il va gagner s'il devient végé, et de l'autre côté, il va mettre ce qu'il va perdre ou les difficultés s'il ne devient pas végé. Donc en gros, être végé, c'est quoi ? Ben, ça veut dire qu'on va intégrer qu'il va y avoir plus de bénéfices et d'avantages que de continuer de manger de la viande ou des animaux. Et y compris dans les bénéfices, je mets bien sûr le bénéfice de ne plus tuer. Ça fait partie des bénéfices. Hein. Nous, c'est généralement le bénéfice qui a été prépondérant pour nous. Voilà. Donc en gros, c'est ce qu'on perd, c'est moins que ce qu'on va gagner. Et puis dans l'autre sens, à contrario, la personne qui va choisir de ne rien changer, c'est parce qu'à un moment, bah, elle va estimer que ce qu'elle peut gagner, c'est moins que ce qu'elle va perdre. Et donc, bah, elle va continuer. Donc, les trois questions de départ étaient communiquer massivement sur tous ces aspects. Est-ce que ça permettrait d'aider à affaiblir l'idée que consommer des produits animaux, c'est la norme et la norme logique ? En fait, ça a déjà été un petit peu vu. Le but du jeu, ça va être d'aller contrecarrer les idées reçues, et notamment que dans l'esprit du plus grand nombre de personnes, La viande, c'est que des qualités, c'est pas de défauts. Le poisson aussi, d'ailleurs, et les produits laitiers, pareil. Donc là, ça va être déjà d'aller casser un petit peu, faire un travail de sape. Là, on est sur la communication, par contre, massive, de masse. Hein. Tout à l'heure, on a vu que la communication par individuel, en individu, mais là, c'est face au public, en fait. Hein. Donc là, ça va être faire un travail de sape sur les idées reçues. Ensuite, c'est autre chose, c'est que, on l'a vu, quand on perçoit que changer les habitudes, si c'est trop difficile, on ne va pas les changer. Par contre, si on commence à percevoir que ce n'est peut-être pas si difficile que ça, on va peut-être y aller plus facilement. Donc, communiquer massivement sur ces aspects, ça peut y contribuer. Et voilà. Donc, c'est ça. Et puis aussi, bien sûr, au niveau des perspectives, comme le conflit de loyauté est finalement quelque chose de très répandu, ça va permettre aussi d'aller à l'encontre de ce conflit de loyauté et donc de permettre aux personnes de ne pas avoir à remettre en question ces gros problèmes psychologiques, mais de pouvoir quand même le contourner. Donc en quoi ça peut être un plus, et ça c'est voilà, la dernière diapo, évidemment le nombre d'animaux d'épargnés, parce que les personnes qui vont devenir végé ou tendance végé pour être en meilleure santé ou pour la gastronomie, etc., de toutes les façons, au bout du compte, ça fait moins d'animaux tués, de toutes les façons. Ça va aussi faciliter l'acceptation de l'argument éthique, parce qu'ils vont contribuer à banaliser le végétarisme. Et puis, très loin d'ici, ça va avoir aussi probablement un impact pour les pays du Sud, puisqu'on sait que les pays pauvres, quand ils commencent à prendre du pouvoir d'achat, vont avoir tendance à copier nos habitudes de vie. Là, on voit en Chine, ils commencent à avoir plein de voitures, etc., etc. Donc, tant que la viande est perçue comme l'idéal du pays riche, on a de risques que les pays pauvres soient pareils. Or, en nombre de personnes, c'est tellement plus, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, les Occidentaux. Donc, ça a des conséquences épouvantables pour les animaux. Rien que l'Inde, c'est 1 milliard, la Chine, c'est 1 milliard. Donc, si toutes ces personnes-là se mettent à manger massivement les animaux, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Déjà en Chine, ils mangent plus de viande rouge qu'aux États-Unis. Pas par personne, mais au total. Donc, le fait d'ici modifier nos jugements, nos valeurs occidentales sur la viande, ça peut-être avoir un impact sur les pays en développement, dits en développement, et donc du coup, là aussi sur le nombre d'animaux épargnés par la suite. Voilà.